18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous accueillir dans votre grand journal du soir. C'est parti jusqu'à 20h, 2h bien sûr, consacré au plan de déconfinement présenté il y a quelques minutes par le gouvernement autour d'Edouard Philippe. Les détails et premières réactions dans votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Des restrictions encore pour 4 régions, une attestation pour déplacement à plus de 100 km, l'attestation employeur pour les heures de pointe dans les transports, la réaction d'un président de région à 18h20, la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset et mon invité dans 20 minutes. De son côté, on est au vert, hein, précisément. 19h15, autre invité, le Vendéen et président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau répondra à Aurélie Herbemont. Et puis à 19h30, on sera au plus près de vous, dans vos régions, à Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Nice, avec nos correspondants mobilisés ce soir. Et vous, bien sûr, au 39-21, comment vous vous préparez à ce déconfinement lundi? On vous attend, bien sûr. Voilà pour l'essentiel de votre rendez-vous du soir. C'est parti, jusqu'à 20h sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai.
Voilà, c'est dit, doucement mais sûrement, précise Édouard Philippe. Le déconfinement est confirmé, mais la France est coupée en deux. 4 régions, tout le quart nord-est, en rouge sur la carte.
Situation particulièrement tendue en effet en Île-de-France, où des règles très strictes vont continuer à s'appliquer, on vous explique.
Il faudra notamment une attestation de son employeur pour prendre les transports en commun aux heures de pointe.
Tout le détail dans un instant. Masque obligatoire dans les transports et verbalisation à la clé, déplacement limité à 100 km.
Et le ministre de la Santé le confirme, désormais chaque malade pourra être testé dès les premiers symptômes.
Ces dernières semaines, tout a été fait pour être en capacité de dépister les personnes vulnérables, mais aussi l'ensemble des personnes symptomatiques. La France est prête pour tester massivement.
Avec des règles d'isolement, hein, ensuite pour chaque cas détecté et aussi pour tous ses proches.
Et les écoles, elles rouvriront bien lundi. En tout cas, 80 à 85%, a dit Jean-Michel Blanquer.
Enfin, les personnels des EHPAD vont recevoir à leur tour une prime entre 1 000 et 1 500 euros. La Bourse de Paris finit en hausse ce soir d'1,5% à 4 501 points.
Et bonsoir Anissa, on vous accueille avec la tendance orageuse ou pas?
Oui, effectivement, Nathalie, bonsoir à tous. Demain, le beau temps reste de rigueur, mais les orages arrivent doucement et par la façade ouest. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
De nouvelles libertés, de l'espace pour se déplacer lundi, donc dans 3 jours. La France va bien sortir du confinement, mais attention, il faudra en profiter avec une très grande vigilance, demande le Premier ministre, surtout dans les zones où le virus continue de circuler. Écoutez Édouard Philippe.
Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. C'est une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie. C'est une bonne nouvelle pour la France, pour les Français. La moins bonne nouvelle, c'est que certains départements ont des résultats moins bons qu'espérés. La carte de France est très claire, le pays est divisé en deux.
Voilà, Édouard Philippe qui a donc annoncé depuis Matignon tous les détails de ce déconfinement de lundi et donc cette carte qui va avec.
Alors la carte de l'épidémie, on la regarde avec vous Mathieu Charrier. Bonsoir, parce qu'on va voir qu'elle est importante pour la suite. 4 régions s'affichent bel et bien toujours en rouge.
Eh oui, alors en rouge, l'Île-de-France, je vais y revenir, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France. Ça, c'est la petite surprise, parce que les Hauts-de-France étaient au orange jusque-là, et surtout que sur les 3 critères mis en place pour dresser cette carte, la majorité des départements des Hauts-de-France sont orange ou vert, mais la région est finalement rouge sur la carte finale, car la situation reste très tendue dans les hôpitaux de l'Oise et de l'Aisne, c'est ce qui fait basculer toute la région. Alors l'Île-de-France, elle, est dans une situation particulière, a répété le Premier ministre, c'est-à-dire que le nombre de cas baisse, mais il reste élevé, plus élevé que nous l'espérions, a insisté Édouard Philippe, dans une région très dense, très peuplée. En Île-de-France, nous devons faire preuve d'une extrême vigilance, a souligné le ministre de la Santé, Olivier Véran. Enfin, hier soir, je vous parlais d'un troisième critère qui devait entrer en action lundi. Finalement, il a été présenté dès aujourd'hui, celui de la capacité à tester les potentiels malades. Et là, toute la France est en vert, manière bien sûr d'insister sur le fait que selon le gouvernement, ça y est, la France est prête à tester à grande échelle.
Mathieu, est-ce que cette carte va continuer d'augmenter, comme on l'a vu ces derniers jours, au quotidien, d'évoluer ?
Alors oui, elle va évoluer, mais ce que l'on a compris, c'est qu'elle ne sera plus communiquée tous les jours. C'est-à-dire que ce sera probablement toutes les 3 semaines, le prochain objectif étant le 2 juin. D'ici là, les résultats de tous ces tests dont je vous parlais vont remonter à la Direction Générale de la Santé et ils vont permettre d'affiner les couleurs de chaque département. Donc si dans ce délai, un département bascule en vert ou en rouge, on ne sera pas forcément au courant. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, même si les préfets et maires, eux, sont chargés d'affiner l'application de cette carte au niveau local. Ils pourront donc prendre les mesures nécessaires.
Merci beaucoup Mathieu Charrier du service Société d'Europe 1. On va y revenir dans le détail, notamment avec Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. On est là-bas dans le vert. Il va nous dire ce qu'il a compris des détails du plan de déconfinement d'Edouard Philippe.
Et dans ces départements verts, justement, tout va aller plus vite. La porte est ouverte à un déconfinement bien plus avancé dès la date du 2 juin, y compris avec réouverture des restaurants. Tout cela sera étudié fin mai. En revanche, situation extrêmement tendue à l'extrême inverse à Mayotte. Le déconfinement là-bas est tout simplement repoussé. Et vigilance maximale maintenue dans les départements rouges de métropole, notamment ceux d'Île-de-France. Bonsoir docteur Jimmy Mohamed.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous comme chaque soir. Le gouvernement a beaucoup insisté sur cette situation en région parisienne, avec des règles très strictes qui vont se maintenir. Pourquoi une telle prudence ?
Alors pour deux raisons. La première, c'est que le virus circule peu, mais il circule toujours, ce qui veut donc dire que à la sortie du confinement, une nouvelle vague peut arriver. Et puis surtout, les capacités d'hospitalisation en réanimation sont encore extrêmement sous tension. Nous avons reçu tout à l'heure le professeur Eric Combe, qui est chef de service de maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière. Il nous explique que dans les services de réanimation, ils sont à 140% d'auto d'hospitalisation en réa, ce qui veut donc dire que même s'il y a de nouveaux cas, les hôpitaux ne seront peut-être pas en mesure d'absorber même une toute petite vague, en particulier en Île-de-France, donc la prudence est évidemment de rigueur.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed, à demain, hein, sans faute dans ce journal de 18h et dès 15h c'est l'émission Santé d'Europe 1, son rendez-vous aux côtés de Mélanie Gomez comme chaque jour.
Ouais, l'Île-de-France, il va falloir une discipline renforcée, voilà le terme que le Premier ministre a utilisé tout à l'heure, avec donc des règles plus strictes, on va y venir. D'abord la règle générale, Marion Dubreuil, et c'est le point principal, les restrictions de déplacement sont levées à partir de lundi partout, plus besoin d'attestation pour bouger, en tout cas dans un rayon de 100 km, ça veut dire la fin des contrôles policiers ?
Pas tout à fait. Hein. Oui, vous n'aurez plus à remplir une attestation à chaque sortie de votre domicile pour les courses, une simple balade ou un jogging. En revanche, ce n'est pas la fin de l'amende de 135 € instaurée pendant l'état d'urgence sanitaire, avec deux nouveaux motifs de verbalisation dans les transports en commun. Le port du masque sera obligatoire sous peine d'une amende, tout comme la réservation pour accéder à un TGV. 20 000 policiers et gendarmes seront affectés à ces contrôles dans les métros, trams, trains et gares. Enfin, si vous souhaitez aller au-delà de 100 km hors de votre département d'origine, vous devrez vous munir d'une nouvelle attestation qui sera disponible sur le site du gouvernement. Là encore, vous aurez le choix entre une version papier ou numérique et vous devrez justifier ce déplacement par un motif professionnel si vous exercez un métier qui exige la mobilité ou par un motif familial impérieux, par exemple un deuil ou l'aide à une personne vulnérable. Là aussi, les forces de l'ordre seront présentes dans les gares, sur les grands axes routiers à l'arrivée et au départ des destinations touristiques. Et si vous n'avez pas d'attestation en règle, vous écoperez d'une amende de 135 € avec un retour à la case départ.
Voilà, ça c'est dit, vous êtes prévenu. Hein, donc les 100 km restent évidemment de rigueur. Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1, hein, liberté toujours encadrée. Et les frontières du pays qui vont rester fermées hein, aussi jusqu'au 15 juin, au moins avec les pays européens. Et jusqu'à nouvel ordre avec les autres. Hein.
Mais en Île-de-France, là, une règle supplémentaire va devoir s'appliquer. Aurélien Fleureau, il faudra une attestation, une nouvelle, pour prendre les transports en commun aux heures de pointe.
Oui, c'était une demande de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, tout simplement pour essayer d'éviter un afflux de passagers pendant ces heures de pointe du matin et de la fin d'après-midi. Et c'est ce que vient d'annoncer Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique en charge des transports.
L'accès aux transports en commun en Île-de-France sera donc réservé aux heures de pointe, aux personnes détenant une attestation de leur employeur ou ayant un motif impérieux pour se déplacer, que ce soit un motif de santé, convocation de justice ou pour accompagner des enfants. Bien sûr, une tolérance sera prévue pour les premiers jours.
Donc pas d'amende lors des premiers jours, on l'a compris, mais ensuite, contravention de 135 euros. La ministre a indiqué qu'en début de semaine, des masques doivent être distribués, mais ce sera en appoint, uniquement pour ceux qui n'ont pas pu s'en procurer. Autre annonce qui était attendue par les opérateurs de transport, la présence de forces de l'ordre lorsqu'il faudra filtrer, réguler dans certaines grandes gares. Et puis, Elisabeth Borne l'a rappelé, en cas de situation problématique, en clair, s'il y a trop de monde, des stations pourront être fermées.
Aurélien Fleureau du service police, du service économie plutôt d'Europe 1. Les transports pour aller travailler, c'est notre coup de fil du 18h. Bonsoir Jean-Christophe Sibéras.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des ressources humaines chez AXA. Cette attestation à délivrer à tous vos salariés donc pour prendre les transports, ça y est, vous êtes prêts? Vous allez pouvoir la fournir d'ici lundi?
Ah bah écoutez, d'abord, c'est peut-être pas tous les salariés, mais on va évidemment se préparer pour ça. C'est tout à fait normal puisque ça vient d'être rendu obligatoire. Alors, il y a des entreprises chez AXA où la consigne pour le moment, c'est ceux qui viennent dans les bureaux, c'est vraiment ceux pour lesquels c'est vraiment nécessaire et indispensable. On était très organisé en télétravail depuis plusieurs semaines, on va le rester. En télétravail, notre priorité c'est la santé des salariés, donc mettre des salariés dans des transports en commun où on ne sait pas encore très bien si, comment ça va se passer, lundi matin il y a un peu d'incertitude hein, sur la densité de l'occupation des transports, on va dire à nos salariés, on le dit déjà d'ailleurs par rapport, parce qu'on a beaucoup de questions, lundi seuls ceux dont c'est vraiment nécessaire viennent.
Donc, ça représente quelle proportion Jean-Christophe Sibéras de salariés qui vont rester en télétravail?
Écoutez, je pense que la plupart des salariés, on va dire que 90% des salariés d'AXA aujourd'hui travaillent chez eux depuis plusieurs semaines, d'ailleurs dans de bonnes conditions, on est plutôt content de la manière dont ça se passe. Donc ça veut dire quoi? 5 ou 10% des personnes avaient des tâches qui exigeaient qu'ils soient sur place, et c'est ceux-là qui vont revenir. Ceci dit d'ailleurs, si quelqu'un se sent pas bien, se sent pas d'y aller, même s'il devrait y aller, nous on respecte le volontariat dans ce cas-là, parce que on ne va pas envoyer des gens de manière forcée au travail.
Pardonnez-moi, réévaluer tous les combien? Vous avez déjà fixé ça?
Alors, c'est clair qu'on va suivre le rythme gouvernemental. Vous avez entendu qu'il y aura un point fin mai. Hein. Donc là, on a les trois premières semaines là, de la deuxième partie du mois de mai. On va démarrer très doucement, très limité. Et ensuite, en fonction de ce que va dire le gouvernement fin mai, on va se réajuster. Mais très honnêtement, nous sentons que déjà, que jusqu'à l'été, on va dire jusqu'aux vacances d'été, de toute façon, ça va rester quand même un nombre limité de personnes qui vont dans les bureaux.
Avec quelles mesures vous prendrez dans vos locaux pour justement s'assurer de la bonne distanciation, les protéger des masques, j'imagine, une prise de température à l'entrée des locaux?
Alors, il y a plusieurs choses. Les masques, bien sûr. On est une entreprise qui va fournir des masques à nos collaborateurs, ceux qui prennent les transports en commun. Évidemment, nous allons fournir un masque pour l'aller, un masque pour le retour, un masque le matin, un masque l'après-midi, donc 4 masques par jour en France, dans nos sites. Certains sites vont effectivement soit prendre la température à l'entrée, soit quand quelqu'un au travail souhaite qu'on prenne sa température, bah, je dirais un peu comme aujourd'hui, eh ben, il va voir le médecin du travail et le médecin du travail peut lui prendre sa température. Bien sûr, espaçage sur le sol, les couloirs, on évite de se croiser, donc avec des sens de circulation, limitation du nombre de personnes présentes dans l'ascenseur. Les portes, si elles peuvent rester ouvertes, on n'a pas besoin de les toucher, donc bloquons les portes en position ouverte. Voilà toute une batterie de choses. Merci. Qui sont d'ailleurs en train de se faire aujourd'hui concrètement dans nos sites et dans nos bureaux.
Merci beaucoup Jean-Christophe Sibéras, directeur des ressources humaines chez AXA. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Et le retour au travail et dans les transports, c'est la principale source de questionnement, d'inquiétude parfois, et dans toutes les grandes villes. Nous allons à Lyon à présent, Jean-Luc Bougeon. Comment les usagers chez vous voient ce début de déconfinement?
Écoutez, franchement, ça ne respire pas la sérénité. Par exemple, je ne suis pas sûr qu'à Lyon, on assiste à une ruée dans les transports en commun à partir de lundi. Certes, l'offre sera conséquente, 80% des rames habituelles de métro et de tram, 80% aussi des bus. Et puis des mesures sanitaires seront prises, port du masque obligatoire, bornes sans contact distribuant du gel hydroalcoolique dans certaines stations, désinfection quotidienne des rames. Mais à l'évidence, il y a une défiance, une méfiance même des usagers. Écoutez.
Les transports en commun, non, sûr. J'opterai pour le vélo, pour être seul sur le vélo. désinfecter mon guidon et pouvoir déambuler en vélo. Alors il y a quand même une promiscuité dans les transports en commun, on va être inexorablement collés les uns à côté des autres, donc on va essayer de ne pas se mettre en danger.
J'essaierai de marcher le plus possible.
Pas de transport en commun?
Non, j'éviterai.
Pourquoi?
Bah parce que c'est quand même pas très fiable au niveau de l'épidémie. Je trouve que même s'ils font des efforts, il y aura forcément du monde aux heures de pointe, il y aura forcément des personnes qui respecteront pas les distances requises.
Bon, ce n'est pas la majorité, mais il y a quand même des gens, dont Alain fait partie, qui prendront le métro lundi matin sans état d'âme.
Je travaille à Mâcon, donc je suis obligé de prendre les transports en commun et le train.
Ça vous inquiète pas?
Non, j'ai hâte de reprendre mon travail.
Vous vous dites pas qu'il va y avoir du monde, vous allez être peut-être un peu collé?
Je ne pense pas qu'il va y avoir du monde. Puis on a tous des masques, j'ai un masque. Ça fait 2 mois que je suis confiné, donc j'attends avec impatience de reprendre mon travail. Il faut y aller.
Voilà, on pourrait donc assister à un report important également vers la voiture. Même si la ville de Lyon a annoncé cette semaine que le parking gratuit c'était fini, il redevient payant à partir de lundi matin, 9h.
Voilà, ça c'est fait aussi, il va falloir enregistrer cette information. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon, va venir vous voir à 19h30, hein. On fera le tour des régions d'ailleurs, pour voir comment cette date du 11 mai se prépare, hein, un peu partout avec tous nos correspondants aux quatre coins du pays.
Et puis ce qui va changer, c'est une promesse répétée qui est centrale pour la réussite de ce déconfinement. Chacun de nous pourra se faire tester dès les premiers symptômes. Justin Morin, comment tout cela va s'organiser?
Alors ça va se passer en 4 étapes. D'abord les symptômes. Si vous avez de la toux, de la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez contacter votre médecin. 2e étape, le test. La France est prête à tester massivement, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé. Ce sera donc à votre médecin de décider si vous devez être testé. Si c'est le cas, il vous en prescrira un que vous pourrez aller passer dans un hôpital, un laboratoire classique ou un drive. Ce sera remboursé par la Sécurité sociale. Ensuite, la 3e étape, l'isolement, au moins jusqu'au résultat du test. Alors la règle générale, ce sera l'isolement à domicile. Des solutions dans des chambres d'hôtel pourront aussi être proposées au cas par cas par le médecin. À partir de là, si le test est positif, il faudra rester isolé jusqu'à 2 jours après la disparition des symptômes. Donc en moyenne, d'après le ministre, ça durera entre 8 et 10 jours. Lors de cet isolement, il faudra faire attention à vos proches. C'est difficile, mais quand c'est possible, il est conseillé de rester le plus possible dans une pièce isolée, de ne recevoir personne et de respecter les gestes barrières, même avec les membres de son foyer. 4e étape, trouver les cas contacts. L'assurance maladie prendra contact avec vous, retracera votre parcours pour les détecter. Ces cas contacts seront aussi appelés pour qu'ils s'isolent et pour être testés éventuellement.
Voilà, précision de Justin Morin. Un budget supplémentaire de 475 millions d'euros est annoncé pour le système de santé et les employés de tous les EHPAD, également ceux des établissements accueillant les personnes handicapées, vont recevoir une prime, 1 000 à 1 500 euros, 1 500 dans les départements les plus touchés.
Une consigne a aussi été répétée, elle concerne les personnes âgées ou vulnérables. Pas de confinement imposé, mais une vigilance fortement recommandée. Les plus fragiles doivent au maximum limiter leurs déplacements et les contacts et surtout porter un masque.
Enfin, l'école, le ministre de l'Éducation nationale confirme la reprise des enseignants en maternelle et en primaire dès lundi, pré-rentrée puis accueil des élèves. Il estime que 80 à 85% des écoles vont ouvrir, ce qui permettra d'accueillir 1 million d'élèves.
Les collèges ouvriront le 18 mai hein, dans les zones vertes, attention, hein, uniquement.
Et puis les commerces, ils vont rouvrir partout comme prévu, 400 000 entreprises. Pour les centres commerciaux, ce sera au cas par cas et pas en Île-de-France. Et pour les plages, eh bien, les maires de la côte ont obtenu de pouvoir demander des dérogations à leur préfet pour ouvrir donc les plages, également les lacs, sous réserve de mettre en place des mesures hein, pour garantir la distanciation.
Voilà donc ce qui change pour nous dans les 3 prochains jours maintenant, lundi précisément, voilà ce qui entre en vigueur, voilà comment la vie entre guillemets va reprendre hein, Sébastien.
Ouais, beaucoup de choses et l'examen ensuite sera fait dans 3 semaines pour la prochaine étape du 2 juin.
Exactement, c'était votre journal complet, on va revenir sur tous ces points avec nos invités et puis avec vous à 18h30, merci. La météo d'Anissa, un peu plus de nuages Anissa.
Oui, effectivement, on a une belle journée aujourd'hui. Demain, la journée sera toujours très agréable. Le temps reste dans l'ensemble assez calme. Mais attention, le ciel est un peu plus partagé entre nuages et éclaircies. On verra sur toutes les régions de France les nuages voiler le soleil de temps en temps. Dans la matinée, quelques averses orageuses sont même prévues sur la côte aquitaine. Dans l'après-midi, toujours sur la façade atlantique, le ciel est de plus en plus chargé avec des orages en fin d'après-midi. Et partout ailleurs, le temps reste sec et ensoleillé avec quelques passages nuageux. Je vous le disais, il fait toujours assez chaud, hein, voire même lourd dans le sud-ouest demain, avec 29 degrés à Mont-de-Marsan, 28 à Montauban, 27 à Grenoble et Clermont-Ferrand, 25 à Nîmes et Paris, 22 à Nice, 21 à Poitiers et seulement 18 degrés pour Dunkerque. Et puis dans la matinée, ça reste doux aussi avec 6 à 16 degrés. Nous aurons 11 degrés en début. début de journée à Paris. Et il n'y a pas que le confinement qui va changer lundi, parce que je peux vous annoncer que lundi, c'est aussi le retour de l'hiver. J'aurai l'occasion de vous en reparler.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy dans un instant sur Europe 1.
On continue bien sûr à revenir sur ce plan de déconfinement jusqu'à 20h. École, transport, tourisme, économie, quelles conséquences pour nos territoires à partir de lundi? Alain Rousset, mon invité dans deux minutes, il est le président de la région Nouvelle-Aquitaine. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Bonsoir Alain Rousset, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Bonsoir, sur Europe 1. Édouard Philippe s'est exprimé, dans la foulée Jean-Michel Blanquer, Bruno, Olivier Véran, le ministre de la Santé et bien entendu quasiment l'ensemble des ministres au premier plan du gouvernement. Comment vous avez accueilli les détails de ce plan dans son ensemble? Je vais simplement vous rappeler deux, trois points. Les écoles, par exemple, on l'a su un petit peu avant, dans une circulaire avant sa prise de parole. Édouard Philippe a appelé les préfets à ne pas envisager de réouverture des écoles en cas de refus du maire. Je sais que vous, vous êtes favorable à un retour à l'école. Combien de maires, d'abord, sont récalcitrants chez vous, opposés même à cette réouverture lundi?
Je n'ai pas l'information sur les 4600 maires. Je ne peux pas vous le dire. Je vois ici ou là dans la presse des réactions d'inquiétude. Je pense que Je sors d'une visioconférence avec les présidents de département. On ne m'a pas remonté dans les discussions que je peux avoir. J'avais une visioconférence avant avec les intercommunalités de refus massif.
Pas de refus massif donc chez vous. Donc les écoles ouvriront. S'agissant, on le sait, des départements rouges, pas de collège ni de lycée. Vous n'êtes pas concerné parce qu'on va bien rappeler qu'on est dans une région verte, la Nouvelle-Aquitaine, région extrêmement touristique et c'est important de le mentionner parce que chez vous, il y a un gros enjeu autour de la restauration, bien sûr, et de l'hôtellerie et des plages, bien sûr. Alors il en a été question. La Nouvelle-Aquitaine, c'est 210 000 cafés et restaurants aujourd'hui en sursis. Édouard Philippe a dit aujourd'hui que si les territoires étaient verts, ce qui est votre cas, cafés et restaurants pourrait peut-être rouvrir avec une décision fin mai et une date, la date du 2 juin déjà évoquée précédemment.
Oui.
Vous y croyez et là vous dites ça y est, on y est presque.
Écoutez, cette période ne se prête pas à l'enthousiasme ou à la joie, vous vous en doutez. Cette période se prête à la prudence, à la fois avec le tissu économique, qu'il faut réouvrir et avec une attention particulière à des risques de contamination. C'est pour ça que la position personnelle que j'ai validée avec un certain nombre de médecins, de professeurs de médecine, de spécialistes d'épidémiologie, est plutôt de conseiller dans la responsabilité du gouvernement à l'usage massif et systémique des masques. Parce qu'on sait que quand tout le monde a un masque, la contamination est quasiment à 2, même pas 2%. Donc voilà, moi, quelle est ma préconisation. Alors, par ailleurs,
les masques où précisément, soyons clairs. Alors, où
les
c'est,
masques
vous m'entendez
où?
Oui. Oui.
Oui, dites-moi. J'ai pas
les masques
votre
où
question.
Précisément? Est-ce que c'est dans l'espace public, exclusivement dans les transports, quand vous parlez des masques?
Je pense que c'est dans l'espace public. Enfin, quand on va chez un commerçant, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de plus en plus de ports de masques. Le problème, c'est quelle est la quantité de masques qu'on peut proposer aux Français. Nous venons de faire une commande de masques de plus de 5 400 000 masques. On est prêt à en mettre à disposition des élèves,
oui.
même aux profs. Oui. Donc on est prêt à cela. Bien entendu, dans les transports, tout notre personnel et les stagiaires de la formation professionnelle, les apprentis. Donc on essaie de mobiliser tout l'appareil productif régional.
Bien sûr. Il y a plusieurs choses quand même, Alain Rousset précisément, et qui peut être particulièrement important pour la région Nouvelle-Aquitaine. Encore une fois, on est dans le vert chez vous. Vous vous êtes adressé deux fois au Premier ministre, par courrier notamment. Aujourd'hui, vous l'avez alerté sur la restauration, sur les 20 000 hôtels aussi de la région en sursis, on l'a dit, région très touristique. Même si on n'a pas de date claire de réouverture, on vient de l'évoquer. Qu'est-ce que vous dites exactement? Qu'est-ce que vous réclamez? Je crois que vous demandiez d'être une région test pour le retour des touristes, c'est ça?
Oui, Alors, les touristes, faut être d'abord, faut être clair. On a fait une proposition aussi avec la présidente d'Occitanie, les présidents de département et des parlementaires, dont Boris Vallaud, d'avoir une mobilisation pour le tourisme social, parce que ce sont les personnes qui ont été les plus mal confinées, si j'ose dire. Donc on a ce type de besoin à travers un chèque vacances, comme cela a pu exister pour un certain nombre de familles. L'idée, c'est d'élargir la base à un niveau de revenu un tout petit peu élevé, plus élevé que ce qui existe aujourd'hui.
Un chèque vacances qui permet donc de prendre quelques jours ou d'être aidé pour ces...
De relancer une dynamique, tout en sachant que, et les campings par exemple, mais aussi la restauration, a proposé une réouverture avec une distanciation physique et des protections. Mais les hôtels aussi peuvent ouvrir si la restauration se fait dans les chambres.
Cette proposition, vous l'avez formulée à Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme. Qu'en est-il à ce stade? Vous avez eu un élément de réponse?
Une tonalité, tout au moins? On a une réunion téléphonique la semaine prochaine. Et je pense que Jean-Baptiste Lemoyne, comme Jean-Yves Le Drian, sont sensibles à cela.
Un autre élément important, sensible à ça. Donc vous aurez une réponse la semaine prochaine, c'est ce qu'on vous a dit?
Oui, oui.
D'accord.
Je crois que c'est le 14 mai où on a une prochaine réunion.
Un autre élément qui est important pour vous particulièrement, parce que le littoral, bien sûr, on en a parlé, Édouard Philippe n'a pas été très prolixe. Édouard Philippe n'a pas été très prolixe sur le sujet, mais quand même, les maires ont obtenu de pouvoir demander des dérogations à leur préfet sous réserve de mettre en place les mesures pour garantir une distanciation. Donc, cette dérogation de cette réserve-là, mais en tout cas, possibilité de demander cette dérogation au préfet, aujourd'hui, c'est quand même un petit pas qui est fait.
Oui, et on a en plus une structure en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle le GIP Littoral, qui rassemble à la fois l'État et la région d'une part, mais toutes les collectivités d'autre part, avec une équipe d'ingénierie qui est en train de travailler sur toutes les mesures précises. L'avantage de réouvrir d'une manière sécure l'ensemble de ces plages, c'est qu'on peut relancer aussi toutes les petites entreprises qui travaillent sur les prêts de surf, de planches de surf et autres types d'activités.
Et bien sûr. Et un dernier mot, Alain Rousset. On sait évidemment que Bordeaux, au centre de votre région, est une ville extrêmement prisée, tant pour les professionnels qui font des allers-retours, souvent d'autres villes jusque chez vous, et puis bien sûr pour les touristes. Il y a toujours cette limite de 100 km avec une nouvelle attestation désormais dans laquelle il faudra justifier si on dépasse les 100 km, motif familial ou impérieux, professionnel. Est-ce que ça veut dire que vous engagez plus de forces de l'ordre sur le terrain et en particulier en gare de Bordeaux, des effectifs renforcés? Oui ou non?
Alors, il y a deux choses qui relèvent de l'État ou de la SNCF, par exemple. Je crois qu'il faut éviter aussi dans les gares, ça a été fait dans d'autres pays, que l'on puisse laisser se déplacer des personnes qui pourraient être porteurs du virus. Donc il y a des réflexions à avoir dans les gares, comme ça se passe en Chine, comme ça se passe en Allemagne, comme ça se passe dans d'autres pays. Il y a toute une installation à faire. Je crois que la SNCF est en train d'y réfléchir. Il y a ensuite tout le travail qui est fait au niveau territorial par les maires, par les collectivités concernées, pour permettre un accès sécurisé aux plages. Aux plages ou à des plans d'eau aussi. Mais il y a plein de questions dans les questions. Vous savez, tout est affaire d'ingénierie, tout est affaire...
Merci.
Et c'est pour ça que dans cette sortie du confinement, les élus territoriaux, les exécutifs territoriaux ont une place considérable. Ils ont à la fois besoin d'être accompagnés par une ingénierie, ils ont besoin de directives d'ensemble de l'État, et ils ont besoin eux-mêmes d'être accompagnés sur l'ouverture des plages.
Bien sûr. Merci beaucoup Alain Rousset. Merci à vous ce soir de nous avoir répondu. On continue évidemment avec les annonces d'Edouard Philippe et avec nos grandes voix dans une seconde.
Europe 1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Dans trois semaines, nous saurons si nous avons réussi à contenir l'épidémie. En attendant, le déconfinement qui est confirmé pour lundi doit se faire avec beaucoup de vigilance, estime le gouvernement, particulièrement en Île-de-France qui reste rouge, tout comme les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Édouard Philippe a précisé les modalités de ce déconfinement: déplacement libre dans un rayon de 100 km, attestation nécessaire pour aller au-delà, verbalisation y compris pour non-respect de l'obligation de porter un masque dans les transports. Particulier en Île-de-France, les heures de pointe seront réservées à ceux qui travaillent. Une attestation de l'employeur sera nécessaire. Sur le plan sanitaire, la France est prête pour tester massivement, promet le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a détaillé les consignes d'isolement pour tous les malades et pour leurs contacts. La semaine prochaine, 1 million d'élèves pourront retourner en classe, en primaire et maternelle. 80 à 85% des écoles seront ouvertes selon l'Éducation nationale. Tous les commerces, 400 000 entreprises peuvent reprendre, sauf les cafés et restaurants, dont la réouverture est étudiée pour le début du mois de juin dans les zones classées vertes. Enfin, dernière information ce soir, Renault va devoir fermer provisoirement son site de production de Sandouville en Normandie sur ordre de la justice qui estime que les mesures de protection des salariés sont insuffisantes.
Merci beaucoup Sébastien Krebsanissa. Toujours chaud côté température demain.
Oui, il a fait chaud aujourd'hui hein, dans le sud-ouest. On a dépassé la barre des 30 degrés, des températures bien sûr estivales, pas habituelles pour un mois de mai. Et bien demain, ça continue dans le sud-ouest avec 29 degrés à Mont-de-Marsan, 28 à Montauban et à Carcassonne, 27 à Grenoble et à Clermont-Ferrand, 25 à Paris, 22 à Nice et seulement 18 degrés à Dunkerque. Demain, le soleil sera encore bien présent, mais attention, c'est le retour des orages. Ils arrivent par la façade ouest.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 et vous le savez, jusqu'à 19h, les grandes voix viennent nous rejoindre. On prend le temps de décrypter, expliquer, décortiquer les annonces d'Édouard Philippe et de ses ministres ce soir avec Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Duteil, chef du service économie.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir
Nathalie, bonsoir à tous.
Bienvenue les grandes voix. Alors vous avez tous écouté attentivement Édouard Philippe, Olivier Véran, l'ensemble des ministres qui étaient autour de lui cet après-midi pour nous annoncer que le 11, voilà, la sortie du confinement va s'enclencher, mais la vigilance sera toujours de rigueur. Alors j'étais avec Alain Rousset il y a quelques instants qui malheureusement n'avait pas écouté hein, la prise de parole du Premier ministre, donc c'était compliqué, mais vous l'avez fait, et notamment vous, Mickaël Darmon, pour démarrer.
Oui.
D'abord sur la forme. On était beaucoup moins évidemment prolifique que les dernières semaines parce qu'on savait déjà beaucoup de choses. Là, il fallait affiner.
Il fallait affiner, puis il fallait démontrer aussi une forme de solidarité gouvernementale, d'équipe. C'est le PAC du gouvernement avec les principaux ministres en première ligne sur le déconfinement qui ont accompagné Édouard Philippe. Il n'a pas voulu se montrer seul. Il a tenu aussi à avoir autour de lui, bien sûr, Olivier Véran, Bruno Le Maire, Muriel Pénicaud et bien sûr Christophe
Castaner.
Et Jean-Michel Blanquer qui ensuite s'est exprimé par la suite. Mais dans la première partie, ils étaient là. Ça veut dire que en fait, c'est aussi la manière de dire voilà, c'est une équipe qui a travaillé à ce plan de déconfinement. Il a bien sûr cité Jean Castex et il a présenté effectivement le plan de la reprise de la vie contre la pandémie d'une manière avec cette carte de France où une partie de la France est en forme de liberté conditionnelle et l'autre partie de la France en rouge qui est en liberté surveillée. Aujourd'hui, à partir de maintenant, et effectivement, c'est la manière dont ce pays va avancer. Il a récusé le terme à deux vitesses, mais en réalité, c'est quand même bien deux vitesses, en tout cas deux niveaux de déconfinement. Un qui est un peu plus rapide, un peu plus avancé, et l'autre qui est encore surveillé. Et puis la surprise.
Oui, alors attendez, gardez-la pour tout à l'heure.
Eh bien, si la surprise qui s'est glissée, vous la saurez plus tard. Voilà.
Voilà, ben oui, c'est ça, ça va être du teasing, parce qu'effectivement, on ne l'attendait pas sur un sujet. Les restaurateurs l'attendaient, bien sûr, mais il y a un autre point sur lequel on l'attendait. On y vient dans un petit instant. Emmanuel Duteil, on a quand même eu aussi cet après-midi, des précisions, notamment pour ceux qui vont emprunter, et c'est important de le signaler, les transports, j'allais dire massivement, mais il va falloir effectivement, surtout en Île-de-France par exemple, retourner dans les métros et autres à partir de lundi. Et là, eh bien, il y a des points très précis. Hein.
Oui, effectivement, puisque depuis quelques jours courait la rumeur qu'il serait possible que l'on doive continuer d'avoir une attestation pour pouvoir monter dans les transports en commun, une attestation notamment dans son employeur. Qui dira quoi cette attestation ? Eh bien, qui dira que l'on est bel et bien obligé d'aller travailler, et notamment aux heures de pointe. Ça n'avait pas encore été totalement confirmé par le gouvernement, et ça y est, c'est donc chose faite. Hein. Le Premier ministre Elisabeth Borne, la ministre qui est notamment en charge des transports, l'ont confirmé à compter du 11 mai, à compter de lundi, et uniquement pour le moment en Île-de-France. Il faudra donc avoir une attestation de son employeur. Pressez-vous, je vous rappelle que demain, c'est un vendredi 8 mai, donc férié. Donc si vous n'avez pas d'attestation... Alors, ils sont bien conscients qu'ils nous annoncent un peu tard. Ils ont dit qu'il y aura un petit peu de tolérance quand même au démarrage.
Est-ce qu'on sait si c'est une attestation qui sera renouvelable quotidiennement, de fait ?
Non, ils l'ont pas précisé, mais enfin, si on prend le cas de collaborateurs d'Europe 1 qui viennent tous les jours à la même heure travailler et qui, pour certains, vont revenir, comme on dit, en présentiel, selon ce mot très moche, au sein de la rédaction la semaine prochaine, ils vont pas faire tous les jours, j'imagine, une nouvelle attestation. On va pas demander à nos employeurs, à nos services RH, de nous faire tous les jours une attestation. Donc, a priori, c'est une attestation unique qui spécifie si bien le fait que vous êtes obligé d'aller travailler. Et c'est un point important parce qu'ils ont été encore une fois de plus très très clairs sur le fait que tous ceux, et ça c'est Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui l'a rappelé, tous ceux qui peuvent être en télétravail doivent, notamment en Île-de-France, mais pas que, rester en télétravail. Et attention pour ceux qui vont contrevenir à la règle des attestations et tout ça dans le métro, au bout de quelques jours, allez bing, une petite amende. Voilà.
Ça, et puis évidemment, si il n'y a pas le port du masque, hein, c'est aussi la raison pour laquelle l'amende. Donc ça, voilà, c'est très clair et je pense que c'était important, évidemment, d'aller là-dessus très vite parce que ça concerne des millions hein, de nos concitoyens à compter de lundi, bien entendu. Ève Roger, du côté de la santé, parlons-nous bien sûr d'Olivier Véran, qui a été très didactique, qui a rappelé les gestes barrières, les contacts à ne pas effectuer, etc., etc. Quand on est contact, quand on est soi-même positif, et bien sûr les personnes vulnérables.
C'était un tuto presque. Hein,
ah oui, a fait, c'est ça.
De la santé. C'est vraiment
j'étais
tuto, encore, je suis malade.
J'étais en dessous
je suis
alors.
Hein.
Ouais, c'est ça.
Non, il y a vraiment. Enfin, moi, je avant de vous parler de ça, c'est vrai que j'étais un peu déçue parce que à part l'attestation obligatoire dans les transports en commun aux heures de pointe et la surprise de Michaël Darmon, franchement, moi, j'ai pas eu le sentiment d'apprendre grand chose. Ces cas contacts et cet isolement, je pense que c'était important à expliquer. Je pense que c'est très important que le public l'entende, c'est-à-dire comment je dois faire, qui je dois appeler, qui je vais voir, l'isolement, qu'est-ce que ça veut dire, le test, comment je le pratique, etc. C'est très intéressant. Enfin, c'est vraiment de la vie quotidienne, quoi. Oui. Donc, il l'avait déjà un peu explicité la dernière fois. Toute la question, effectivement, moi, ce qui m'a, ça m'a amusé. J'ai plutôt souri en voyant la carte de la capacité des tests qui était totalement verte partout. Ce troisième critère qu'on n'avait pas jusque-là. Et on voit que la France est la championne du monde. Tous les départements sont des champions du monde de tests. Et ça, c'est très, très difficile à vérifier. On sait que Olivier Véran dit qu'aujourd'hui, on est à 280 tests par semaine. Lundi, à partir de lundi, on est censé passer à 700 000 tests par semaine. C'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir comment ils vont faire. Alors, je vais juste vous raconter une toute petite histoire.
Allez-y.
Je suis fascinée par ces 20 automates chinois que la France a achetés là, dans le dernier mois. Et je vous avais déjà raconté que aucun ne marchait, aucun fonctionnait, ça ne marchait pas. J'ai hier vérifié, j'ai appelé à Poitiers, puisque c'est là où je connais un professeur de virologie, et je lui ai demandé, alors ça y est, est-ce que vos machines fonctionnent ? Et il m'a dit, oui, nous sommes en test, et à partir de lundi, on pourra en faire 1000 par jour. Et l'objectif, c'est d'en faire 2000 par jour. Il y en a 20, faites le calcul. On arrive à 294 000 par semaine, donc ça double effectivement la capacité, mais c'est surtout ce qui m'a amusé, c'est qu'en fait il m'a dit, mais 1000 par jour, je sais pas comment, pour l'instant dans la Vienne en particulier, ça va être compliqué de faire 1000 tests par jour, on n'en a pas besoin pour l'instant, réalité. Donc et tout d'un coup je me suis dit, mais peut-être qu'au fond c'est 700 000 par semaine, est-ce que vraiment on en aura besoin? C'est mon côté optimiste.
Bien sûr. Non, mais vous avez raison. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même cette dichotomie entre les zones vertes et les zones rouges.
C'est ça.
Alors, c'est ça. Hein. Il faut quand même appeler un chat un chat. Mickaël, je sais, vous avez très envie de revenir sur ces tests massifs que la France est prête à effectuer. Donc, on y retourne dans une petite seconde. Juste après ça, les grandes voix, tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir qui prend le temps de décrypter les annonces d'Edouard Philippe avec les grandes voix autour de vous, Nathalie Lévy.
Alors on se retrouve évidemment pour revenir sur ce qui a été dit cet après-midi. On avait déjà de toute façon les grandes lignes, mais évidemment il est important de s'intéresser et de s'arrêter sur certaines précisions. Michaël Darmon, quand même, il y a une sorte de petite lueur qui est apparue, surtout pour le littoral, hein, pour ces régions-là vertes qu'on voit tout à fait vertes et pour lesquelles les maires se mobilisent chaque jour un peu plus pour dire bah laissez-nous ouvrir les plages, laissez-nous ouvrir les plages. Et c'est passé presque entre deux, mais c'est passé quand même.
Ah oui, alors s'il y a une vague que les Français attendent, c'est bien de pouvoir donc profiter des vagues maritimes. Hein. Donc effectivement, on a bien vu que tout d'un coup, il y a eu comme ça, subrepticement, ça a été annoncé via les préfets.
L'air de rien.
Autorisation qui sera donnée aux maires qui considèrent que leur commune est prête, c'est que leur littoral est prêt. Eh bien, les préfets pourront donner donc au cas par cas l'autorisation d'ouvrir des plages. C'est une manière, sans dire qu'on a vraiment plié le genou, c'est une manière quand même d'avoir entendu cette très forte offensive depuis quelques jours donc des maires du littoral, des associations, des appels, des collectifs, notamment qui s'appelait Libérer nos plages, et qui a bien entendu été intégré, parce qu'effectivement ça participe à la couleur, si je puis dire, ouais, cette fois-ci plus optimiste de cette possibilité de pouvoir retourner sur les plages, ce qui est important quand même pour le moral des Français, et surtout quand on les appelle à un sursaut encore de discipline avec ce début de liberté retrouvée.
Voilà, donc ça c'est effectivement le petit sourire peut-être, mais c'est passé vraiment, il s'est pas étendu, hein, ils ont pas été prolixes hein, sur, ce point.
Absolument.
C'était vraiment une vaguelette, voilà, exactement. Emmanuel Dutheil, allons sur quelques chiffres, parce qu'il y a eu quand même de quoi se réjouir, ou en tout cas pousser un souffle de soulagement, notamment pour les salariés qui ont été très exposés, on l'a beaucoup dit, dans les EHPAD, les maisons de retraite.
Oui, effectivement, il y a une prime qui est confirmée hein, d'un peu plus de 2000 euros pour tous ces gens qui sont là aussi en première ligne et qui chaque jour font un travail énorme. Donc ça vient allonger la liste de tous ceux qui ont bénéficié de primes. On avait beaucoup parlé notamment des caissiers, même si là c'était à la discrétion de chacune des entreprises, et les boîtes ont quand même été plus ou moins généreuses en fonction de leur capacité ou de leur politique sociale. Il y avait eu également des primes du côté des fonctionnaires pour ceux qui là aussi étaient en première ligne, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais tous ces gens qui font tourner le pays là aussi, hein, pour que notamment tous les plans d'aide puissent fonctionner. C'était très attendu du côté des EHPAD. C'est sûrement au vu de la situation tout à fait logique et un minimum. Donc voilà, ça a été confirmé, c'était totalement dans les tuyaux et on attendait, hein, mais donc une prime de 1 000 à 1 500 euros pour les collaborateurs des EHPAD.
Un mot également rapide sur les commerçants, ce fonds de solidarité dont on parle aussi depuis maintenant un mois et demi, étendu, mais attention, hein, on va compter en nombre de jours quand même l'extension.
Voilà, effectivement, c'est-à-dire que on savait qu'il allait sûrement être étendu, donc là ça y est, c'est totalement confirmé, même s'il n'y avait pas beaucoup de doutes avec ce qu'avait déjà dit Bruno Le Maire. Donc ça marche jusqu'à la fin mai. Il y a également une confirmation dont on avait parlé ensemble, je crois, mardi soir, si je ne dis pas d'Annerie Nathalie, sur les commerçants qui ont dû fermer pour des fermetures administratives. On peut citer par exemple les coiffeurs. Eh bien, eux vont pouvoir bénéficier de l'annulation pure et simple des charges sur les mois de mars, avril et de mai. Confirmation donc là importante pour toutes ces professions. Alors ça ne concerne malgré tout pas tout le monde. Si on prend l'exemple d'un salon de coiffure, ça doit être une entreprise de moins de 10 salariés. Donc ça concerne quand même une grande partie de la profession. Mais je parle des salons de coiffure, je pourrais vous parler des libraires, des magasins de vêtements,
etc. Exactement. Alors voilà sur ces annonces économiques, on va y revenir, on va refaire le tour un petit peu avec vous. Ève Roger, on se parlait, on n'y est pas revenu dans le détail, mais des personnes les plus vulnérables.
Ah oui, alors ça c'est très important.
Ça a été pris d'ailleurs de manière assez diverse et variée. Les personnes les plus vulnérables dont Olivier Véran s'est emparé.
Oui, alors ce que je trouve très important, c'est à quel point ils ont insisté, le Premier ministre et Olivier Véran, sur la nécessité de respecter un confinement le plus strict possible. Et alors vous souvenez de la polémique qu'il y avait eu quand Emmanuel Macron avait sous-entendu que les personnes âgées et vulnérables pourraient rester confinées. Donc là,
Évidemment, politiquement, c'était pas tenable, mais en gros, la consigne reste rester confiné. Et, et je crois savoir qu'ils ont bien lu le journal Le Monde. Enfin, je plaisante parce qu'ils l'ont sans doute lu avant, parce qu'il y a une étude qui montre aujourd'hui, qui est publiée, une modélisation de médecins de la PHP, qui montre que si ces personnes-là, les personnes âgées, les personnes vulnérables, ne sont pas protégées, on aura à nouveau un risque de saturation dès le mois de juillet dans les hôpitaux, en particulier d'Île-de-France, avec jusqu'à 33 500 morts, et voire 87 000 s'il n'y a pas d'autres mesures de sécurité. Donc ça veut dire qu'ils savent précisément que c'est ces personnes-là qui doivent être protégées pour éviter une nouvelle catastrophe. Et on sait que la nouvelle catastrophe serait bien pire que la première, avec tout ce qu'on sait sur l'état des hôpitaux. Donc je crois que c'est, politiquement, ils ne peuvent pas dire « restez confinés », mais... si mes parents m'écoutent, je vais leur dire restez confinés.
Restez confinés, exactement. Merci, on se retrouve dans un instant. N'hésitez pas à faire passer vos messages à vos familles, vos parents, vos amis, les grandes voix. On se retrouve dans une seconde.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Et on revient sur les annonces d'Édouard Philippe et des ministres cet après-midi sur cette date du déconfinement validée lundi. Ce sera le cas avec vigilance de rigueur. Pour autant, et surtout dans les zones rouges, 4 régions sont toujours dans le rouge, dont l'Île-de-France. Mais voilà, la France déconfine à partir de lundi. Et Michaël Darmon, on se déconfine à partir de lundi. L'état d'urgence sanitaire, c'est quoi? C'est 24 juillet, si mes souvenirs sont bons. Prolongation jusqu'au 24 juillet.
Oui, c'est ce que pour autant, mon projet.
Voilà, pour autant, on discute là cet après-midi d'un retour dans l'hémicycle.
Bien écoutez, actuellement, depuis 15 heures, c'est-à-dire que c'est intéressant pour le fonctionnement de la République aujourd'hui, pendant que Édouard Philippe présentait donc le plan de déconfinement, le plan opérationnel de déconfinement, et bien depuis 15 heures, les députés qui commencent à revenir dans l'hémicycle, qui sont cette fois-ci 175 représentants donc décomposés donc selon les groupes et bien sûr les.
Ils se sont déconfinés avant le 11.
Ça commence à se déconfiner parce qu'ils sont quand même beaucoup plus finalement, mais là ils sont donc en fait partiellement donc revenus et depuis 15 heures, ils discutent du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire déjà voté donc au Sénat. Et justement, il y a en ce moment tous les amendements qui sont présentés par tous les groupes pour tenter de faire en sorte que le projet de loi soit tout simplement prorogé de mois en mois et non pas jusqu'au 24 juillet. Bien entendu, tout le monde attend la discussion qu'il y aura sur l'article 6 qui organise les fameuses informations, le traçage, les brigades, le rapport au secret médical. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment les députés sont là et comment beaucoup ont fait d'ailleurs remarquer l'absence des ministres concernés par le déconfinement. Ils auraient préféré, notamment du côté des Républicains, on a souligné le fait que les ministres, notamment comme Olivier Véran ou Christophe Castaner, n'étaient pas là. Ouais. Et bien figurez-vous que, et bien une heure plus tard, d'ailleurs à la tribune de sa conférence de presse, Olivier Véran, parce que j'écoutais les deux un peu en parallèle, a dit je vais rejoindre ce débat très important à l'Assemblée. Ouais. Donc manifestement les messages sont passés et on voit arriver quelques ministres maintenant sur les bancs. Donc le cadre juridique de l'état d'urgence prolongé est en train de se discuter pour être voté et être prêt également pour le 11 mai.
Je ne sais pas si on aura le temps, mais il était attendu au tournant, Édouard Philippe, avec ce déconfinement confirmé le 11 mai et ce plan qui était annoncé aujourd'hui. Vous allez nous dire dans un petit instant si déjà ça... Enfin, si on a le temps, si globalement il a coché toutes les cases ou pas en termes de dynamique, en termes de précision et sur l'ensemble avec ses ministres. Emmanuel Dutheil, on a eu d'autres annonces économiques, notamment la TVA à 5,5 pour les masques ou encore le nombre d'entreprises qui rouvrent leurs grilles, qui rouvrent leurs portes plutôt.
Oui, effectivement. Alors, pour être très honnête, j'ai été très étonné du nombre, parce que quand on apprend qu'il y a 900 000 salariés qui vont retourner au travail le 11 mai, si on compare ça aux 12 millions de salariés qui sont au chômage partiel, je me suis dit que c'est un micro-déconfinement pour tous ceux qui vont pouvoir retourner travailler. Ils parlent de 400 000 entreprises, donc c'est pareil. Je vous rappelle que le chômage partiel, on est quasiment 1 million d'entreprises concernées par le chômage partiel. Donc on voit que c'est une véritable reprise, mais une reprise en douceur. Il y a un point qui, je trouve, est peut-être passé un tout petit peu inaperçu dans le discours d'Édouard Philippe. Alors, il fallait rester concentré jusqu'à la toute fin et par moment, quand même, on peut pas dire que c'était le plus rigolo, ce genre de discours. C'est à la fin, quand une question lui est posée sur les propositions sur l'Institut Montaigne, dont on parlait ici même, hier soir avec vous, Nathalie, qui prône de plus travailler. Alors, au début, il laisse entendre, pour le moment, on va essayer de limiter la casse. Et surtout, il utilise un mot en disant, pour le moment, on doit faire face à la crise sanitaire et à un appauvrissement général. Le terme, je trouvais très fort. Et derrière, il dit, ce n'est pas le moment de penser à ça, mais il va falloir, à un moment, se poser la question de l'inventivité, de l'ingéniosité. Pas vraiment du temps de travail, mais on comprend bien que pour être ingénieux, c'est pas obligatoirement travailler 35 heures, 5 jours par semaine, etc., etc. Donc, ça va être intéressant de voir comment la thématique va évaluer là-dessus. Et on voit qu'il y a une sorte de, je sais pas si Michaël Darmon a des informations là-dessus, mais une petite bisbille au sein du gouvernement entre ceux qui aimeraient bien entrouvrir cette porte et cette question du temps de travail et d'autres, notamment à Bercy, qui grosso modo disent vous êtes gentils, on va déjà gérer l'urgence, on va pas mettre les Français dans la rue maintenant, ils sont pour certains déjà rincés par cette crise, donc on va pas en rajouter tout de suite, mais c'est très intéressant de voir ce
voir
débat
qu'on commence
monter.
À peut-être un ballon d'essai comme ça du côté
exactement alors c'était la toute fin, il répondait vraiment à la toute dernière question, mais bon, il faudra sûrement surveiller cette petite musique dans les jours à venir.
Bah oui. Alors, Michaël Darmon, c'est comme les plages, on passe ça entre deux, et peut-être qu'effectivement, c'est un petit son qui va revenir, un petit son de cloche.
Oui, qui a déjà commencé, à teinter, depuis le début. On sait que l'Institut Montaigne joue un peu son rôle toujours de ballon d'essai, parce que le gouvernement n'ose pas toujours, parfois, mettre en avant des mesures. Ça avait été le cas, notamment pour la réforme de l'islam. Et là, il y a aussi un mot supplémentaire qu'il a prononcé aussi, Édouard Philippe. Il a parlé également, on verra si, on y arrivera par le travail, par la solidarité. Ouais. La solidarité, ça renvoie à la journée de solidarité post-canicule. Donc peut-être que là, il esquisse un pointillé le débat sur peut-être une journée, comme l'évoque l'Institut Montaigne, de l'Ascension, qui pourrait ne pas être fériée au nom de la solidarité, ou d'autres dispositifs. En tout cas, il a dit, il pose des bonnes questions, il faudra débattre. On voit bien que ce débat, et en tout cas ces propositions, sont loin d'être enterrées.
Ouais, bah tout ça c'est aussi, enfin pour certains, une question de patriotisme économique. Donc on verra comment ça se joue. Un petit dernier tour de piste, chacun. Ève Roger, encore un mot sur les aspects santé et retour à l'école. On savait, mais disons qu'on nous a précisé encore les choses. Quand même 80 à 85% des écoles qui rouvrent. On a l'impression que l'Île-de-France n'est représente un grain de sable, parce que moi je peux vous dire qu'en Île-de-France et à Paris dans le 15e, il y a trois écoles sur un secteur qui sont ouvertes, ni plus
ni
moins.
Je regarde en bas, j'habite dans le 15e, est-ce que l'école, non, elle est en train de se préparer? Non, en fait, il est très bon élève, Jean-Michel Blanquer. Vous voyez ces chiffres-là, c'est vrai, c'est 87 à 90% des communes, la semaine prochaine, 10% la semaine d'après. Alors c'est vrai qu'il y a 50 000 écoles. Donc s'il n'y en a que 10% qui n'ouvrent pas tout de suite, ça fait quand même 5 000 écoles. Et vous savez à quel point les enseignants peuvent faire du bruit et dire à quel point ils ne sont pas contents. Ce qui est important, c'est de voir si ça veut dire que c'est 1 million d'élèves sur près de 7 millions qui iront à l'école la semaine prochaine. Donc on voit le rapport comme il y a 130 000 instituteurs, enfin des professeurs des écoles, et sur 380 000, c'est-à-dire à peu près 30%. Donc vous voyez, on voit quand même que ça va être une rentrée, mais ça va être des toutes
très,
petites
très, très
points.
Progressif, voilà, c'est ça. Voilà, lui, il a donné le chiffre global pour qu'on ait l'impression que, mais effectivement, dans les écoles, ils sont 6.
Vous voyez, entre 15 et 10 maximum, donc vous le voyez. Donc ça va être tout petit, mais ça donne quand même des chiffres spectaculaires comme il les a donnés. Et puis, pour tous les parents qui nous écoutent, si leur l'instit est devant les élèves, peut-être pour les enfants qui restent à la maison, il faut savoir que ça sera d'autres instituteurs ou alors des remplaçants. C'est-à-dire qu'il y aura de toute façon des gens qui seront là présents pour s'occuper des enfants qui font encore l'école à distance.
Ah oui. Merci beaucoup les grandes voix, merci beaucoup merci à tous les trois, Ève Roger, Emmanuel Duteil, non Michaël Darmon, pas demain, parce que demain on est en édition spéciale pour revivre en fait ces deux mois ensemble.
Voilà.
Mais je vous informe effectivement que de 18h à 20h vous aurez un document sonore extraordinaire signé Laure d'Autriche et Sébastien Guidis pour nous referme le film de ce confinement, cette période insolite, insensée et ubuesque que nous avons tous vécu, en tout cas tellement particulière, et l'après, que nous propose l'après, avec Jean Viard entre autres, avec psychologue économiste Nicolas Bouzou qui seront à nos côtés, et vous Michaël, je vous retrouve pas dimanche mais je serai à l'écoute parce que vous recevrez dimanche Europe 1 Les Échos, CNews, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, le grand rendez-vous Europe 1 dès 10h. Vous êtes évidemment au rendez-vous. Merci les grandes voix, à très vite.
Merci, à bientôt.
À suivre dans un instant, Nathalie Lévy.
C'est Sébastien Claude pour un nouveau journal complet.
Europe 1.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1 avec la suite du programme Nathalie Lévy.
19h15, une réaction à la prise de parole d'Edouard Philippe et des ministres pour ces annonces de déconfinement. Bruno Retailleau, le Républicain et patron du groupe Les Républicains au Sénat. Invité d'Aurélie Herbemont, 19h30, on va chez vous au plus près de vous en région. Comment vous vous préparez sur place au déconfinement? La Côte d'Azur, Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, dans l'Ouest et l'Est, avec tous nos correspondants mobilisés avec vous, les auditeurs, au 39-21.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Si ces nombres et si ces chiffres restent bas, nous pourrons nous en féliciter et passer à une nouvelle phase. Si ça n'est pas le cas, nous en tirerons les conséquences et nous nous adapterons.
Dans 3 semaines, nous saurons si nous avons réussi à contenir l'épidémie, promet Edouard Philippe. En attendant, le déconfinement va commencer, mais avec une grande vigilance.
Avec 4 régions en rouge sur la carte, dont l'Île-de-France, où les mesures vont rester strictes.
Une attestation de son employeur sera obligatoire pour prendre les transports en commun aux heures de pointe. Nous passons un coup de fil à la Fédération des usagers.
La reprise à l'école, 1 million d'élèves pourraient retourner en classe, pourront même, estime Jean-Michel Blanquer.
Une prime pour les employés des EHPAD et puis la dérogation arrachée par les maires des communes côtières. Des plages pourront rouvrir au cas par cas.
Et Anissa, le temps?
Eh bien demain, ça sera un petit peu plus agité dans le ciel de France. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu une belle journée estivale. Demain, nous aurons plus de nuages et surtout le retour des orages sur la façade atlantique. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Cette fois, la date du 11 mai est bien gravée dans le marbre. Lundi, dans 3 jours, le confinement ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Nous allons retrouver notre liberté de déplacement, mais dans une certaine limite. Des confinements très progressifs. 3 semaines de vigilance, le souhaite le Premier ministre Édouard Philippe.
Dans 3 semaines, à la fin du mois de mai, nous saurons précisément où nous en sommes. Nous saurons si, oui ou non, nous avons réussi à contenir l'épidémie. Nous serons tout cela au rythme des contaminations et des entrées à l'hôpital et en réanimation. Si ces nombres et si ces chiffres restent bas, nous pourrons nous en féliciter et passer à une nouvelle phase, élargissant nos espaces de liberté dans de nombreux domaines particulièrement importants pour l'été qui vient. Si ça n'est pas le cas, nous en tirerons les conséquences et nous nous adapterons. Je souhaite évidemment à tout prix éviter cette hypothèse, mais il ne serait pas sérieux et il ne serait pas raisonnable de ne pas l'évoquer.
Edouard Philippe, le Premier ministre, qui a donc annoncé les modalités précises basées sur une carte désormais figée.
Oui, la carte de l'épidémie qui est figée donc pour les 3 prochaines semaines avec une France coupée en deux. Adrien Beck, le déconfinement va se faire à petits pas et particulièrement donc dans les zones rouges.
Oui, c'est-à-dire dans 4 régions, hein, Grand Est, Île-de-France, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté. Jardins et parcs resteront fermés, de même que les collèges. Règles encore plus strictes en région parisienne où la situation est moins bonne qu'espérée. Là, il faudra justifier votre présence dans les transports aux heures de pointe avec par exemple une attestation employeur. Concernant l'intégralité du territoire, dans les transports en commun, là encore, port du masque obligatoire sous peine d'une amende de 135 €. Plus besoin en revanche d'attestation pour quitter votre domicile, sauf si vous vous déplacez au-delà des 100 km. Là, il faudra justifier votre déplacement. Notez aussi que les frontières, y compris avec nos voisins européens, resteront fermées. Et puis, une règle qui n'a rien de contraignant, mais qui est fortement conseillée, les personnes âgées et fragiles doivent rester chez elles. Au niveau sanitaire, le gouvernement assure aussi, sans donner de chiffres, que les tests sont à disposition pour dépister les personnes qui présentent ne serait-ce qu'un symptôme. Les malades seront invités ensuite à s'isoler. Les personnes contacts seront elles aussi testées. Une première phase, on le voit, prudente donc, qui résonne avec les mots tout à l'heure d'Edouard Philippe. Nous ne pouvons pas faire les malins avec le virus.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Et dans 10 minutes, Aurélie Herbemont reçoit Bruno Retailleau, le président, le patron du groupe Les Républicains au Sénat.
C'est donc une nouvelle liberté qui s'ouvre, hein, mais pas totale, on l'a compris. Et dans les départements verts, la porte est ouverte, hein, des confinements bien plus avancés à partir du 2 juin, y compris avec la réouverture des restaurants. En revanche, dans les rouges, là, des mesures particulières sont mises en place, notamment en Île-de-France, nous disait Adrien Beck, avec donc cette attestation d'employeur nécessaire pour prendre les transports aux heures de pointe.
Alors justement, nous sommes en ligne ce soir avec le président de la Fédération nationale des usagers des transports. Bonsoir Bruno Gazot.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est une bonne chose cette attestation aux heures de pointe. Cela fait sens, ça vous rassure ?
Écoutez, on n'a pas été surpris par les annonces du Premier ministre. Ça faisait partie des choses qui étaient en discussion entre les autorités organisatrices, les entreprises et la fédération que je préside. Donc, c'est des choses qu'on connaissait. Nous n'avons pas de désaccord de fond avec ce qui est annoncé. Nous avons quand même un peu de perplexité et un peu de crainte sur la mise en œuvre détaillée de ces dispositions, qu'il s'agisse de l'attestation, qu'il s'agisse de la délivrance des masques, qu'il s'agisse en dehors de l'Île-de-France, dans les régions qui ont décidé ainsi des coupons, pour lesquels les dispositifs informatiques ne sont pas encore au point. Donc dans la mise en œuvre, on a encore pas mal de craintes et de perplexités.
Merci Bruno Gazot. On va tenter de vous rappeler parce qu'on a vraiment un problème de son. On a du mal à vous comprendre. Vous êtes le président de la Fédération nationale des usagers des transports. On va revenir vous voir. Merci à vous. Et à partir de 19h30, justement, quel déconfinement à travers l'ensemble du pays. On fera le tour de nos correspondants dans les différentes régions. Et vous avez la parole, vous les auditeurs, au 39-21. N'hésitez pas, Sébastien.
L'école, là aussi c'est une question sensible qui provoque beaucoup d'inquiétudes. On entendait ces derniers jours les réticences des maires, des enseignants, de parents d'élèves. Au final, le ministre de l'Éducation nationale a donné des chiffres. Virginie Salmen, il promet qu'une majorité, une grande majorité des écoles seront bien ouvertes la semaine prochaine.
Oui, 80 à 85% des 50 000 écoles de France vont rouvrir, selon le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à partir de mardi pour certaines, jeudi pour un plus grand nombre. Mais comme prévu, avec très peu d'élèves, 15% des enfants de maternelle et primaire dans un premier temps. Pour les encadrer, il y aura 35% des professeurs présents. Les autres enseignants feront de l'enseignement à distance pour tous les élèves qui restent chez eux. Et puis d'autres petits groupes d'élèves reprendront la semaine du 18 mai. Ceux des classes non prioritaires, donc les petits et moyens de maternelle, les CE1, CE2 et CM1. Et puis c'est confirmé, les collèges des zones rouges ne rouvrent pas pour l'instant. Donc ça concerne les Hauts-de-France, la région Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et l'Île-de-France. Seuls les élèves de 6e et 5e des collèges des zones vertes pourraient reprendre. C'est du conditionnel à partir du 18 mai.
Virginie Salmen du service Société d'Europe 1.
La France est prête à tester massivement. Sur ce point, elle est dans le vert. Les détails ont été donnés sur le plan destiné à détecter les malades au plus tôt.
Dépistage possible et gratuit dès les premiers symptômes. Enquête immédiate pour retrouver tous les contacts et des consignes d'isolement. 475 millions d'euros ont aussi été annoncés pour le système de santé. Budget supplémentaire qui va notamment permettre de verser dans les semaines qui viennent une prime à tous les employés des EHPAD ou des établissements accueillant des personnes handicapées. Au moins 1 000 euros et 1 500 dans les départements les plus touchés. Une prime qui sera défiscalisée.
Et écoutez une réaction ce soir partagée du docteur Pascal Mévart. Il préside l'association des médecins coordinateurs, justement dans les EHPAD d'Alsace.
C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des personnels donc des EHPAD, puisque tout le monde a quand même répondu présent à la crise qui s'est abattue sur nous depuis 2 mois, en première ligne, souvent démunis, et donc avec une charge de travail phénoménale. C'est une reconnaissance de la nation au personnel des EHPAD. Par contre, c'est vrai qu'une prime, c'est quelque chose d'instantané. Ça ne résout pas le problème de la rémunération, de la sous-rémunération plutôt, des personnels des EHPAD, les personnels soignants, qui n'est pas du tout rémunéré au même niveau que le personnel hospitalier, donc dans le milieu sanitaire. C'est merci, mais ça ne suffit pas. Donc je pense que d'une manière générale, le personnel soignant et le personnel des EHPAD attend mieux, attend plus.
Un propos recueilli par Hélène Terzian pour Europe 1.
Et nous en parlions hier soir, ici même, de nombreux maires demandent à corps et à cri l'accès aux plages. Eh bien, ils ont obtenu de possibles dérogations.
Oui, la règle va rester la fermeture de toutes les plages et également des lacs. Mais chaque maire pourra demander au préfet d'autoriser leur ouverture dans certaines conditions, sous réserve de mettre en œuvre des mesures pour assurer bien sûr la distanciation entre les personnes. Le député Les Républicains du Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle, faisait partie donc de ces élus qui le réclamaient.
Moi, j'accueille très favorablement les annonces du gouvernement puisque nous demandions très exactement que les plages soient ouvertes en accord avec les maires et les préfets et d'une manière raisonnable et raisonnée. Il ne s'agit pas d'ouvrir toutes les plages sans discernement, mais on ne voyait pas pourquoi on devait traiter à part les plages. Et si on peut se promener en forêt, pourquoi on ne pourrait pas marcher sur la plage? C'est à minima ce qu'il faut permettre et peut-être pas à tout moment, mais nous avons, nous, des marées relativement amples et une profondeur de plage à marée basse de plusieurs centaines de mètres. Donc, largement de quoi s'égayer sur la plage sans rencontrer d'autres personnes et dans le respect des règles sanitaires. Et puis, par ailleurs, là aussi, on peut demain accepter, pourquoi pas, la pratique de certains sports nautiques ou certaines activités nautiques. On pourra demain prendre sa voiture, la garer sur un parking et faire ses courses dans un magasin et on ne pourrait pas mettre une embarcation à l'eau ou aller faire du kitesurf. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ce que nous demandons tout simplement, c'est de la cohérence et du bon sens.
Daniel Fasquel, le député Les Républicains du Pas-de-Calais, joint par Jean-Jacques Herry pour Europe 1.
Alors si ce sera bientôt la plage, parfois ce sera sans café, sans restaurant, hein, qui reste bien fermé pour l'instant. En revanche, tous les autres commerces rouvrent. 400 000 entreprises peuvent précisément reprendre lundi.
Oui, il y a les libraires, les fleuristes, les boutiques d'habillement qui sont dans les starting blocks et puis les salons de coiffure évidemment qui sont très attendus. En tout, c'est 875 000 emplois qui peuvent reprendre dans le commerce à partir de lundi. Pour les centres commerciaux, en revanche, ce sera au cas par cas en accord avec les préfets et ce ne sera pas possible en Île-de-France. Voilà pour les précisions. On va terminer avec un petit sourire. Vous connaissez forcément le tube Déjeuner en paix de Stéphane Echer. Eh bien voici
absolument.
Déconfiner en paix, c'est d'actualité.
J'abandonne tout espoir de sortir ce matin. Les nouvelles sont mauvaises ou qu'elles viennent. J'attends le moment qu'on déconfine enfin. Je m'accroche à mes rêves, faut que je tienne. Cette fois je ne lui annoncerai pas ces discours qui nous coulent. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Je me dis qu'on pourrait espérer.
Voilà, déconfiné en paix. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est une chorale dirigée par Stéphane Echer lui-même qui a réécrit et repris ce texte à Aigues-Mortes, avec également la chorale du Rosa Bonheur à Paris. Donc ils ont revisité le Déjeuner en paix initiative pour recueillir des fonds pour la Croix-Rouge.
Merci beaucoup Sébastien, on adorait ce morceau, on va se faire volontiers à déconfiner en paix. Donc merci à vous, à tout à l'heure. 19h30 sur Europe 1. Anissa.
Oui, Nathalie.
On se déconfine et on s'abrite parce que les orages arrivent.
Et oui, à l'approche du week-end, c'est le mauvais temps qui arrive. Et à l'approche du déconfinement, c'est le grand mauvais temps qui arrive. Parce que lundi, je peux déjà vous dire qu'on aura une journée hivernale. Les températures vont chuter de près de 10 degrés. Et on aura même des chutes de neige en montagne. J'aurai l'occasion de vous expliquer tout ça, évidemment, demain entre 18h et 20h. Alors, vous parliez du retour des orages. Effectivement, Nathalie, ça se passe à l'ouest. Demain matin, le temps est plutôt calme sur l'ensemble du pays. La journée commence avec un léger voile nuageux sur la moitié sud. Mais sur la façade atlantique, ce sont les averses qui se déclenchent demain matin avec sur les pays de la Loire quelques coups de tonnerre. Dans l'après-midi, les orages vont gagner du terrain. Ils vont empiéter sur la Gironde, le centre-val de Loire, le Nivernais. Une journée donc placée sous le signe des coups de tonnerre. Nous aurons également des orages sur les Pyrénées et l'Auvergne. Dans le sud, le vent souffle toujours, c'est la tramontane, hein, jusqu'à 70 km/h. Les températures, elles se portent plutôt bien. Demain matin, elles seront comprises entre 6 et 16 degrés. Nous aurons 6 à Rouen, 8 à Belfort, 11 à Paris, 15 à Marseille et 16 à Bordeaux. Et puis dans l'après-midi, il fait toujours chaud, voire même lourd dans le sud-ouest. 29 à Mont-de-Marsan, 28 à Tarbes et Carcassonne, 27 à Clermont-Ferrand, 26 à Strasbourg, 25 pour Paris, 24 à Marseille et Charleville-Mézières, 22 à Nice. Et allez, la température la moins élevée sera pour Dunkerque avec seulement 16 petits degrés. 19h13 sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir et c'est l'heure, Nathalie Lévy, de retrouver l'interview politique.
Oui, l'interview d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Nathalie.
Et vous recevez ce soir le sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau est votre invité.
Bonsoir Bruno Retailleau.
Bonsoir Aurélie Herbemont.
Lundi au Sénat, le groupe LR s'était massivement abstenu sur la stratégie de déconfinement du gouvernement. Vous aviez reproché à Édouard Philippe un pari à qui tout double. Est-ce que les derniers détails présentés par le Premier ministre cet après-midi vous ont davantage convaincu ?
En tout cas, ils ne m'ont pas surpris parce que c'est la mise en musique de ce qu'il a annoncé, le déconfinement à l'Assemblée nationale la semaine dernière et lundi au Sénat. Moi, je pense et je suis favorable au déconfinement. Je lui ai d'ailleurs à plusieurs reprises indiqué. Je pense que poursuivre un confinement, le prolonger, les risques économiques mais aussi les risques sanitaires sont énormes. Donc il faut que la France se déconfine. Ce que j'ai reproché au Premier ministre, c'est faire en sorte qu'il fasse un pari. Pourquoi ? Parce qu'en même temps qu'on mettait la France sous cloche, c'est-à-dire qu'on faisait le confinement, il aurait fallu faire ce que beaucoup d'autres pays, et pas seulement en Asie, mais aussi en Europe, ont fait, en développant une stratégie beaucoup plus offensive pour casser la chaîne de contamination, en dépistant massivement, en traçant les contacts, et puis ensuite en isolant. C'est parce que nous n'avons pas eu, si j'ose dire, cette stratégie offensive, cette stratégie qui permettait justement de mieux prévoir et de mieux préparer le déconfinement, que ce plan est un petit pari.
Petit pari, vous dites encore ce soir, qu'est-ce qu'il manque selon vous pour réussir lundi et les jours, les semaines suivantes ?
Je pense maintenant qu'il faut vraiment, puisque le gouvernement nous a, je pense, écouté et qu'il s'est rendu à une stratégie offensive qui va consister justement d'abord à accepter quand même que le masque soit obligatoire dans les transports publics. Alors moi je pense qu'à partir du moment où le masque sera obligatoire dans les transports publics, il sera obligatoire dans les gares, qu'il sera obligatoire dans certains commerces, autant le rendre obligatoire partout dans l'espace public en centre-ville. C'est une protection et c'est aussi une pédagogie. Quand vous portez le masque, vous pensez à respecter les mesures de précaution et vous indiquez aux autres aussi, parce que vous portez un masque, qu'on n'est pas en période normale. Donc je pense qu'il faut rendre obligatoire et étendre justement le port du masque. Et puis ensuite, il va falloir beaucoup plus massivement tester pour tracer et pour isoler. Mais je pense que la politique de dépistage n'est pas encore suffisamment claire.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, a assuré qu'on serait prêt la semaine prochaine à tester massivement.
J'espère, vous savez, maintenant, je ne veux pas douter de ce que le gouvernement nous dit. Simplement, ils nous ont habitués à tellement d'annonces qui ne se réalisaient pas sur le terrain. On est, je pense que cette semaine, je pense qu'on sera autour de 280 000 à 300 000. Voilà. Il va falloir quand même, en quelques jours, sans doute doubler. Admettons qu'on soit à 350 000. On doit passer à 700 000. Le pas est énorme. Simplement, moi, ce que je dis, c'est que si on veut vraiment casser les reins de cette épidémie, il faut massifier beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire, c'est vrai, dans le grand public, il va falloir tester aux premiers symptômes, mais tester systématiquement le personnel soignant, dans les EHPAD, mais aussi dans les hôpitaux, tester toutes les personnes qui sont confinées dans les prisons, mais aussi dans les EHPAD, mais aussi les personnes handicapées, c'est important, et tester aussi ce qu'on appelle ceux qui peuvent être des vecteurs de dissémination du virus, comme par exemple le personnel enseignant. Et c'est parce que des pays ont massifié le dépistage qu'ils sont parvenus à des résultats bien meilleurs que nous.
Bruno Retailleau, est-ce que l'équilibre entre retour à une vie plus normale et précautions pour éviter une reprise de l'épidémie est respecté selon vous, avec, on le voit, des réouvertures d'un côté pour l'économie notamment, et en même temps des restrictions, des règles qui restent nombreuses ?
Bien sûr, alors ça c'est une grande discussion. Vous savez qu'il y a une étude qui est parue il y a quelques jours qui montre que si nous avions généralisé le port du masque, il aurait peut-être été aussi efficace que le confinement. Bon, peu importe, je pense que maintenant les Français savent qu'il n'y avait pas suffisamment de masques, on n'avait pas prévu. Donc on a dû confiner notamment pour désengorger le service de réanimation de nos hôpitaux. Et de ce point de vue-là, ça a fonctionné. Maintenant, moi je pense que on peut parfaitement, notamment dans les départements qui seront en vert, c'est pratiquement les deux tiers de la France, relancer franchement avec des mesures de précaution, évidemment sanitaires, bien sûr, notamment pour les salariés, mais il faut relancer l'activité économique. Parce que après le choc sanitaire, ce que je redoute, c'est un choc social, un choc économique énorme.
Le fonds de solidarité pour les petites entreprises et les indépendants sera prolongé jusqu'à fin mai. Il y aura aussi une exonération des charges sociales sur 3 mois pour les petites entreprises ayant dû fermer. C'est suffisant pour qu'elles tiennent le choc de cette crise économique ?
En tout cas, la dernière mesure est la bienvenue. Ça fait des semaines et des semaines qu'on avait dit au gouvernement, écoutez, autant sacrifier l'impôt d'aujourd'hui pour ne pas mettre en faillite ces petites entreprises, parce que si vous ne dégrevez pas, c'est-à-dire si vous n'annulez pas tout simplement la dette fiscale et la dette sociale, ces entreprises, elles vont faire faillite. Donc vous ne pourrez même plus demain toucher l'impôt ou les charges sociales. Donc ça, je pense que c'est bienvenu, mais sans doute faudra-t-il étendre, parce que ce que j'ai compris entreprises, c'est que c'était les petites entreprises. C'est encore flou, il a parlé de fermeture administrative. Je pense que ce sera un point qu'il va falloir absolument préciser. C'est encore un peu flou.
Alors peut-être moins flou, Bruno Retailleau, le Premier ministre a annoncé des primes pour les personnels des EHPAD, de 1 000 à 1 500 euros selon les zones. C'est une décision qui était nécessaire.
Ah franchement, elle était nécessaire. Elle était nécessaire parce que, croyez-moi, moi j'ai été président de département, j'ai géré un nombre important d'EHPAD, plus de 130 en Vendée, et le personnel est très dévoué, malheureusement il est en trop petit nombre, et à partir du moment où le personnel soignant avait touché des primes dans des hôpitaux, il n'y avait aucune raison de ne pas gratifier aussi pour montrer notre reconnaissance à un personnel qui a été quand même vraiment là aussi, aux avant-postes, parce que franchement, il y a tellement de personnes âgées qui ont dû mourir seules dans les EHPAD, parce qu'ils n'ont pas pu aller à l'hôpital, parce que parfois, on leur disait, ben non, restez parce que vos chances sont réduites. Alors, on leur disait pas comme ça, mais il y a eu un drame en France. Et on voit bien que sur les morts que contre notre pays, il y a sans doute autant de morts qu'ils l'ont été dans les EHPAD que de morts qu'ils l'ont été dans les services de réanimation, dans les hôpitaux.
Bruno Retailleau, un sujet a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, l'accès aux plages. Vous êtes vous-même élu d'un département où il y a des plages, la Vendée. Alors la règle reste la fermeture, mais les préfets pourront en autoriser l'accès sur demande des maires. Vous prenez ça comme une marque de confiance de l'exécutif envers les élus locaux, c'est une mesure que d'ailleurs que vous défendiez au Sénat.
Alors c'est extraordinaire, moi c'était la surprise de la soirée, parce que c'est une mesure que nous avons défendue mardi au Sénat. Le gouvernement, on a déposé un amendement d'ailleurs d'une sénatrice vendéenne, on l'a soutenu cet amendement, mais le gouvernement s'y est opposé, farouchement opposé. Olivier Véran nous avait dit, mais grosso modo c'est irresponsable d'ouvrir des plages, bon, et là il y a eu un revirement. Ce sera à mettre au compte de toutes les contradictions qu'on aura pu avoir depuis des mois et des mois, mais c'est pas grave, je pense que c'est une bonne nouvelle. Faut pas faire n'importe quoi et on peut pas traiter toutes les plages n'importe comment. On a simplement dit que les maires, ce sont des gens qui sont responsables, qui connaissent le terrain. Et bien, dans un dialogue avec le préfet de département, on va voir au cas par cas. Quand on a des grandes plages, il n'y a pas de problème. On ouvre dans les départements qui sont au vert des parcs. Voilà. Ben, croyez-moi, les plages de Vendée, de l'Ouest, notamment d'Atlantique, c'est des centaines de kilomètres et ce sont des hectares et des hectares de surface. Donc, il n'y a pas beaucoup plus de risques, mais il y a des précautions. Là encore, ces précautions, on devra vérifier qu'elles puissent, en réalité, prendre corps dans la réalité.
Vous donnez acte au gouvernement d'avoir, au moins sur ce point, en tout cas, être allé dans le sens des élus locaux.
Absolument, absolument. Je pense que c'est vraiment important. Et dans le sens du déconfinement, je crois que on peut pas tenir la France sous cloche longtemps, parce que le Premier ministre avait eu ce grand mot, comme l'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron, il avait parlé d'écroulement, mais je pense qu'il avait eu raison de parler d'écroulement. C'est ça le risque. Et pas seulement d'ailleurs sur le plan économique, hein. Regardez sur le plan sanitaire, les médecins, notamment de ville, ont vu les consultations s'effondrer de 40%. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sans doute malades, qui ont même des maladies chroniques, qui n'ont pas osé aller consulter, soit chez leur médecin traitant, soit à l'hôpital.
Bruno Retailleau, le Premier ministre, cet après-midi, n'a pas à nouveau utilisé ce terme d'écroulement. Il a en revanche anticipé un appauvrissement général dû à la crise économique. Alors, il n'a pas répondu précisément sur la nécessité d'augmenter ou pas le temps de travail, puisque l'heure est à la crise, dit-il. Mais il explique qu'après, il faudra nous donner les moyens de retrouver notre prospérité par le travail, la solidarité, l'inventivité. Pour vous, travailler plus, c'est la seule solution, ou il peut y avoir plus inventif pour les mois, les années qui viennent?
Ah, il y aura beaucoup de solutions, il n'y en a pas une. Et je crois que dire aux Français qu'il y a une seule solution, c'est leur mentir. Moi, je pense qu'il va falloir dans un premier temps, parce que on va avoir un chômage partiel qui va se transformer en chômage tout court. Et là, il va falloir être ingénieux. Par exemple, pour les centaines de milliers de jeunes apprentis ou même diplômés qui vont venir sur le marché du travail, il va falloir proposer une mesure massive d'exonération de charges sociales pour qu'on puisse créer une incitation pour les entreprises, pour qu'elles puissent les recruter. Il faudra aussi pour ceux qui sont déjà dans les entreprises, plutôt qu'ils soit au chômage purement et simplement, on a un énorme problème de compétences en France. Eh bien, moi, je proposerai une mesure qui permettra aux entreprises que ces salariés, elles les gardent, elles les fassent monter en compétences, mais que pendant ce temps de formation, on puisse prévoir des mécanismes de formation professionnelle qui ne reposent pas et qui ne soient pas à la charge de l'entreprise. Et puis, vous avez raison, il faudra dire aux Français, écoutez, dans notre vie personnelle et dans notre histoire, dans notre vie collective, on ne se tire d'un mauvais pas que par un sursaut d'effort. Alors arrêtons de dire aux Français que demain on va raser gratis, que l'État peut tout payer, il faudra se retrousser les manches. Moi j'ai fait une proposition d'ailleurs sur Europe dimanche dernier en disant moi je propose 37 heures payées 37 et je propose même au niveau du SMIG, sans alourdir les charges de l'entreprise, un 13e mois. Notamment par un certain nombre de moyens qui permettraient de ne pas amputer les heures supplémentaires sur la prime d'activité que le salarié qui est modeste reçoit. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, y compris à relancer l'investissement des entreprises. Mais je pense que moi, les dettes qu'on accumule ne seront pas remboursées par plus d'impôts, elles seront remboursées par plus de croissance. Et on fera plus de croissance si on est capable de mettre une quantité de travail supérieure sur la table.
Ces débats animeront sans aucun doute les prochains mois. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir été mon invité ce soir.
Merci Aurélie Herbemont. Bonsoir.
Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy avec dans un instant.
Demain en France, demain dans le monde, vos rendez-vous habituels. Et puis les régions, maintenant qu'on sait qu'on est tous déconfinés le 11, comment ça va se passer à Nantes, Toulon, Lyon, Marseille, Strasbourg, Nice. On est avec nos correspondants et au 39-21 avec vous. Bien sûr, à tout de suite sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h et tous les jours avant 19h30, on s'intéresse à ce qui va se passer demain. On prend un temps d'avance pour commencer demain en France, Nathalie Lévy.
Jean-Pierre Montanet est au rendez-vous, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Alors Jean-Pierre, un temps annulé et puis finalement autorisé, les commémorations du 8 mai, elles auront bel et bien lieu demain, mais attention, la version est minimaliste quand même.
Oui, ni fanfare militaire comme cette sonnerie demain matin, ni garde républicaine pour accompagner le chef de l'État sous l'arc de triomphe en haut de Champs-Élysées, désert, sans public, mais avec des caméras quand même pour une retransmission en direct à 11h à la télévision. Sinon, cérémonie nationale classique avec ses temps forts symboliques. Hein. Emmanuel Macron ravivera la flamme et déposera une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, avec à ses côtés, à distance, une poignée de personnalités seulement, dont le Premier ministre, la ministre et la secrétaire d'État aux armées, la maire de Paris, quelques hauts gradés militaires et les deux anciens présidents, François Hollande et Nicolas Sarkozy, invités. Mais, Nathalie, c'est historique, aucun ancien combattant n'a été convié pour célébrer la chute de l'Allemagne nazie. Incompatible avec l'épidémie, population à risque, hein, compte tenu de leur âge avancé. Le chef de l'État a appelé la population à respecter de son côté une minute de silence, voire de pavoiser les façades, pour célébrer tous ces héros qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté.
Alors voilà pour Paris, entre autres, en Provence, en Outre-mer d'ailleurs, comment les cérémonies vont-elles se dérouler là-bas ?
Ben, là aussi, Nathalie, cérémonie réduite au strict minimum, hein, comme à Saint-Nazaire, le dernier bastion ennemi libéré en Europe en 1945. Pour célébrer ce 75e anniversaire, la ville avait prévu les choses en grand, avec du public, des anciens combattants, des historiens, des scolaires, hein, pour expliquer cet épisode majeur de notre histoire. Eh bien, tout le monde restera à la maison. Demain, ils ne seront que 9 autour du préfet pour déposer une gerbe. Régime identique dans l'ensemble des chefs-lieux de département, ainsi que dans les territoires d'outre-mer. À l'échelon des communes, cérémonie également autorisée, mais là avec 4 personnes seulement autour du maire, pas davantage. Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Florence Parly, a pris le soin d'appeler la plupart des associations d'anciens combattants privées de commémoration. Terrible sentiment de frustration, mais aussi une sage acceptation chez eux face à la menace du virus. Pour se souvenir lors de cette cérémonie tronquée, sans s'affranchir des règles du confinement, le comité parisien de la Libération a lancé une initiative en invitant tous les Français à aller individuellement dans sa commune déposer demain une fleur, un dessin, un poème sur les monuments dédiés aux victimes du nazisme.
Merci beaucoup. On en parlera bien entendu sur Europe 1. On refera le film de ces événements. Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet. Belle soirée à vous. Didier François est avec nous pour Demain dans le Monde. Bonsoir Didier.
Bonsoir Nathalie.
On l'a entendu.
C'est la pire attaque que nous n'ayons jamais subie. Pire que Pearl Harbor. Pire que le World Trade Center. Jamais nous n'avons subi une telle attaque et cela n'aurait jamais dû arriver. Cela aurait pu être arrêté en Chine.
Eh oui, c'est Donald Trump qui compare l'épidémie du Covid-19 à l'attaque surprise du Japon contre les États-Unis en 1941, il y a plus de 75 ans, ou aux attentats d'Al-Qaïda, comme ça, là, en 2011, et il accuse la Chine d'en être à l'origine.
Oui, ce sont en fait des menaces à peine voilées, dans la mesure où, face à ce qui reste tout de même une infection virale, Donald Trump a choisi pour référence les deux revers militaires et terroristes les plus traumatiques de l'histoire des États-Unis et qui ont à chaque fois conduit le pays à entrer en guerre. Donc aucun chef d'État ne fait une telle déclaration à la légère, d'autant qu'elle est totalement cohérente avec un durcissement des positions de l'administration américaine au niveau économique, commercial ou diplomatique. Parce que la crise sanitaire a aussi été un formidable révélateur des ambitions de la Chine avec cette fameuse diplomatie du masque qui dissimule si mal sa volonté de profiter d'une position dominante pour imposer ses conditions à l'échelle mondiale.
Et car la Chine est également passée, elle, à l'offensive, hein ?
Absolument, une stratégie lancée le 10 mars lorsque le président Xi Jinping s'est déplacé à Wuhan qui commençait à être déconfiné, alors pour expliquer que la victoire remportée sur le virus était la preuve de la supériorité du système socialiste chinois et donc que ce modèle devait désormais s'imposer comme une alternative aux démocraties occidentales encore affaiblies par la gestion de la maladie. En fait, s'il ne fallait retenir qu'une seule conséquence géostratégique de cette pandémie, c'est certainement que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale, en passant de la compétition à la confrontation, avec une rivalité désormais ouvertement assumée par les deux puissances et dans laquelle tous les acteurs internationaux seront sommés de choisir leur camp.
Merci beaucoup Didier François. Et demain, émission spéciale sortie du confinement. On se retrouve donc lundi pour Demain dans le Monde avec vous.
30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et Sébastien Krebs, on vous retrouve pour le rappel des titres.
Une France coupée en deux pour engager le déconfinement lundi. Quatre régions du quart nord-est classées rouges, Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Le gouvernement lance son déconfinement de façon progressive, déplacement libre dans un rayon de 100 km, attestation nécessaire pour aller au-delà, verbalisation y compris pour le non-respect de l'obligation de porter un masque dans les transports et vigilance accrue en Île-de-France. Il faudra une attestation de son employeur pour prendre les transports aux heures de pointe. Sur le plan des tests, le ministre de la Santé promet que la France est prête. Les cas positifs seront isolés. Autre annonce à retenir, 80 à 85% des écoles vont rouvrir la semaine prochaine. 1 million d'élèves pourront être accueillis. La réouverture des cafés et des restaurants sera étudiée à partir du début du mois de juin dans les zones classées vertes. En attendant, tous les autres commerces vont pouvoir rouvrir. Enfin, autre information ce soir, Renault va devoir fermer provisoirement son site de production de Sandouville en Seine-Maritime. Ordre de la justice qui estime que les mesures de protection des salariés n'étaient pas suffisantes.
Merci beaucoup Sébastien Krebs, très belle soirée à vous.
Bonne
Allez, on vous retrouve la vie. Bon pied, bon oeil, n'est-ce pas Anissa? On l'a senti dans la voix. Hein.
Comme un petit peu de jalousie de ce week-end de 3 jours, Nathalie, non?
Comme vous me connaissez mal. Et parce qu'en plus, au sortir du week-end, eh bien, la colère du ciel a dit ça. C'est un peu ça, hein, l'image.
Oui, c'est ça. Effectivement, le tonnerre va gronder demain, surtout à l'ouest du pays. Alors, demain matin, le temps est plutôt calme sur l'ensemble du pays, mais c'est à l'ouest, sur la façade atlantique, que les averses se déclenchent et elles seront accompagnées de coups de tonnerre. Les orages, ils vont s'introduire dans le pays, vont gagner du terrain sur la Gironde, le centre-val de Loire, le Nivernais, les Pyrénées et l'Auvergne. Demain, vous risquez de voir quelques éclairs. Les températures, elles sont toujours agréables. 6 à 16 degrés demain matin, nous aurons 11 à Paris. Et puis dans l'après-midi, il fait toujours chaud, voire même lourd au sud, jusqu'à 29 degrés à Mont-de-Marsan, 26 à Strasbourg, 25 à Paris et seulement 16 degrés pour Dunkerque.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous Nathalie Lévy. Et à 3 jours du début du déconfinement, on prend le pouls dans toutes nos régions ce soir avec les correspondants d'Europe 1.
Et oui, on est un peu partout. La tonalité, évidemment, ils vont nous la livrer dans une petite seconde. On va essayer de se faire du bien en commençant peut-être par la Côte d'Azur. Bonsoir Frédéric Michel.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Vous avez raison, ouais. Il fait très beau.
Ouais, voilà. Et en plus, vous avez entendu comme nous, hein, peut-être un début de d'escale sur la plage. Si les préfets valident, ce sera au cas par cas. On a entendu le Premier ministre avec des dérogations des préfets sous réserve donc de mettre en place les mesures de distanciation. Il y aura peut-être des accès aux plages. Bref, ce sera dans un second temps parce que d'abord, il y a le retour à l'école.
Effectivement, hein, c'est un des dossiers épineux hein, de ce déconfinement. Et vous le savez que dans une majorité des villes, hein, la reprise progressive, l'a rappelé Jean-Michel Blanquer, la reprise c'est le 12 mai, hein, mardi prochain. Pour d'autres, ce sera le 14. Et donc, dans environ 10% des cas, c'est le cas dans ma zone, hein, dans le Var ou les Alpes-Maritimes, beaucoup plus tard, en juin ou même en septembre. C'est le choix, par exemple, du maire de Fréjus qui a dû prendre un arrêté. À Cannes, on se dirige vers une rentrée en plusieurs temps, dès mardi pour les plus grands, mais pas de retour à l'école pour l'instant pour les petites et moyennes sections de maternelle, explique le maire de Cannes, David Lisnard.
Compte tenu des protocoles sanitaires intéressants, mais pas toujours extrêmement applicables, et donc on a reçu quelques jours avant. Il faut dire que la rentrée générale n'est pas possible pour les enfants le 12 mai. La capacité de réussir l'ouverture des établissements dépend de la capacité à accueillir peu d'effectifs.
Alors le son est un petit peu métallique, mais c'était une visioconférence. Hein. Ouais. Alors à Cannes, 20-25% des parents envisagent de remettre leurs enfants à l'école dès la semaine prochaine. Ça concerne environ 1500 écoliers, des grandes sections de maternelle au CM2, ce qui devrait permettre de maintenir des classes à moins de 15 élèves en primaire, 10 en maternelle, c'est la préconisation. Hein. Le maire de Cannes a même lancé un appel aux parents leur demandant quand cela est possible de garder leurs enfants à domicile. Cela ne concerne pas les enfants des soignants ou des personnes dont l'activité est indispensable, hein, au pays. Cette demande ne concerne pas non plus les enfants handicapés ou les élèves en décrochage ou qui ont besoin d'un soutien scolaire, hein, qu'ils n'ont pas à la maison.
Bien sûr. Alors Frédéric Michel, 15 élèves maximum par classe, un strict respect des mesures barrières, on commence vraiment à les avoir bien enregistrées, la cantine, les transports. Cette rentrée post-confinement, Frédéric, c'est un casse-tête, hein, vraiment.
Oui, c'est ce qui a fait reculer, hein, certains maires, d'autant qu'ils engagent leurs responsabilités. Vous l'entendiez, le protocole sanitaire est strict, le document est parvenu tardivement. Des municipalités estiment donc n'avoir pas eu le temps pour préparer au mieux cette reprise des cours. Il faut faire respecter les gestes barrières, pas simple, avec les plus petits, maintenir un approvisionnement en gel hydroalcoolique, savon, trouver des solutions pour la cantine. Puis il y a les questions du transport scolaire. Les heures de rentrée et sortie des écoles seront différenciées, les rassemblements interdits devant les établissements. Mais si tout le monde arrive en même temps, on fait comment? Et puis, doit-on dépister tous les agents municipaux travaillant en milieu scolaire et les personnels de l'éducation nationale? Il n'y a pas d'obligation. À Mandelieu et Cannes, c'est le choix qui a été fait. Et les municipalités demandent que l'éducation nationale en fasse autant. Mais vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Bah oui. C'est de la dentelle. Hein.
Mais c'est de la dentelle. Et puis en plus, chez vous, on avance vers les beaux jours. Donc il va faire de plus en plus chaud. Et donc compliqué parfois quand on a plusieurs enfants qui ont envie de boire au même robinet, par exemple, entre autres. Allez, un mot concernant les collégiens. La reprise des cours aura bien lieu le 18 mai. Hein.
Très vite, c'est le Premier ministre qui l'a confirmé cet après-midi. Dans les zones vertes et uniquement dans les zones vertes, c'est le cas du sud-est de la France, les collégiens et d'abord les 6e et 5e pourront reprendre les cours à partir du lundi 18 mai.
Merci beaucoup Frédéric Michel, voilà pour ce point dans les salles de classe, dans les écoles, les établissements scolaires avec vous. On va rester dans la région, il y fait bon. Bonsoir Nathalie Chevance, on est à Marseille.
Je vous confirme, fait chaud.
Oui, voilà. Alors, chez vous, tant mieux, parce que de toute façon, les grands centres commerciaux climatisés, pour l'instant, pas franchement fréquentables. Ceux, en tout cas, de plus de 40 000 mètres carrés en Ile-de-France, pas de réouverture dans l'immédiat, ça, on le sait. En région, ça va être un peu de la dentelle aussi, du cas par cas, c'est ça?
Oui, c'est ça, parce que c'est le préfet qui va trancher, et le préfet de la région sud doit s'exprimer au cours d'une conférence de presse. Demain matin, c'est donc un interminable feuilleton pour tous ces commerçants, car si pour les galeries marchandes de moins de 40 000 mètres carrés, il n'y a pas de souci, pour les plus grandes, ce n'est pas encore sûr à 100%, et ce, à 3 jours de l'ouverture potentielle. On pense par exemple aux terrasses du port, en plein centre-ville à Marseille, 170 boutiques, avec vue imprenable sur la mer. Et ici, on mise sur la fermeture des bars, des restaurants, de la salle de sport, de quoi récupérer des mètres carrés et de limiter le flux de clients. Michèle Teboul est directrice d'une boutique de prêt-à-porter. Elle croise les doigts, un peu stressée quand même.
Nous n'avons que l'espoir d'ouvrir. Nous n'avons encore aucune certitude. Du côté de la direction des terrasses du port, on a tout fait pour que ça soit possible en diminuant le nombre de surfaces ouvertes. C'est notre espoir parce que y a trop d'enjeux. C'est un centre de vie extrêmement actif. De le voir vide comme ça, c'est triste parce que c'est tellement de frustration de la part des clientes, de la part des vendeuses, de la part des propriétaires de boutiques, de la part de tous ces personnes qui travaillent pour ce centre et pour la vie de ce centre. C'est juste triste.
Voilà, une galerie fantôme, en tout cas pour l'instant. Même si les protocoles sont déjà en place, c'est peut-être un signe. Vigile à l'entrée qui contrôleront le port du masque obligatoire, avec une distribution prévue pour ceux qui n'en auraient pas, en tout cas dans un premier temps.
Alors, il y a aussi un autre exemple, Nathalie, dans votre département, à quelques kilomètres de Marseille. Et oui, cette zone bien connue, plan de campagne, c'est vraiment l'un des plus grands centres d'Europe qui domine un peu, hein, comme ça, oui. Sur une espèce de petite montagne. Là aussi, on est bien au-delà des 40 000 mètres carrés, clairement, hein, autorisés. Et donc, qu'est-ce qui va se passer?
Eh ben là, par exemple, pareil, on attend la décision préfectorale, parce que plan de campagne, c'est 300 000 mètres carrés de surface commerciale, 500 enseignes, mais ça n'a rien à voir avec une galerie marchande parce que là-bas, la majorité des boutiques sont en plein air et même si on roule parfois des kilomètres hein, pour venir faire ses courses jusqu'ici, Robert Abella, le directeur du centre, reste optimiste.
Le Premier ministre n'a pas parlé en plus de bassin de vie ou des placements de bassin de vie. Il a parlé uniquement de centres commerciaux au-delà de 40 000 mètres carrés. La précision, je vais l'avoir avec les services de la préfecture. Moi, mon rôle, c'est de mettre les moyens sanitaires, demander aux gens de venir les masques, tenir distance sécurité, les contrôles aux entrées, les limitations de personnes à l'intérieur d'un magasin en mètres carrés. Même si on a de la visite, les gens peuvent se répartir sur le nombre de commerces qu'on a. J'aurais moins de problèmes qu'un centre-ville aujourd'hui où c'est beaucoup plus confiné, beaucoup plus fermé. Voilà, donc c'est pour ça que je veux dire, aujourd'hui, je comprendrais très mal l'interdiction d'ouvrir les commerces à pleine campagne.
Voilà, verdict dans la soirée, au plus tard, demain matin. Et vous, Nathalie, par exemple, est-ce que vous irez faire vos courses plaisir dans un centre commercial dès la semaine prochaine? Voilà. Bah, écoutez, moi, j'ai posé la question devant les terrasses du port. On écoute.
Si je ne suis pas obligée, non, je n'irai pas tout de suite. Je pense qu'on va reprendre doucement. Voilà. Je travaille en réanimation et je pense qu'il vaut mieux éviter. Quand on n'a pas besoin, on ne vient pas. Quoi.
Si on met le masque, on ne craint rien. Ça nous manque. Ça faisait partie de notre vie. Shopping, faire des courses. J'ai envie d'acheter des chaussures, j'ai envie d'acheter des t-shirts pour l'été. Sortir des fois pour rien, mais on fait des courses quand même.
Voilà, ça manque. En tout cas, je peux vous dire que dans les boutiques de tous ces centres commerciaux, bah, tout est prêt en attendant le feu vert.
Bon, bah écoutez, nous, on reste mobilisés pour vous écouter et apprendre de ce qui se passe chez vous dans ces belles régions où, on le sait, les plages vont peut-être rouvrir bientôt au cas par cas. Vous nous direz hein, dès que la première affiche ouvert. Merci Nathalie Chevance. À tout de suite, on va continuer à Lyon avec nos correspondants. On est un peu partout en France ce soir pour regarder comment ça se prépare, cette reprise. Lundi, on sera à l'ouest également dans un instant et puis dans l'est de la France. À tout de suite, en Occitanie également, tout de suite.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. On prépare ce déconfinement et on fait le tour de la France avec tous nos correspondants en région, nos journalistes Europe 1 autour de vous, Nathalie Lévy.
Et nos auditeurs aussi, notamment vous, Laetitia, vous avez composé le 39-21. Bonsoir, bienvenue sur Europe 1.
Bonsoir.
Alors, vous êtes commerçante, je crois, vous êtes dans l'heure hein, précisément. Et vous vous préparez à ouvrir lundi avec le cœur léger ou avec angoisse?
Plutôt avec angoisse. Plutôt avec angoisse. On est d'un côté, on est très très heureux de pouvoir retrouver notre travail et nos clients, parce que c'est quand même l'intérêt de ce métier. Et d'un autre côté, on est particulièrement angoissé parce qu'on a affaire à plusieurs problématiques. La première, c'est la mise en place de toutes les règles sanitaires et des mesures barrières qui ont un coût, mine de rien. Et la seconde, c'est aussi la relation avec avec les fournisseurs qui s'avèrent quand même relativement difficiles parce qu'on va nous imposer des choses, nous interdire d'autres. Et donc voilà, il va falloir s'organiser, il va falloir travailler différemment et ça va être compliqué.
Oui, vous êtes plusieurs dans je sais pas, vous êtes dans quoi exactement?
Alors moi je suis dans le prêt-à-porter,
vous êtes plusieurs dans le magasin?
Alors j'ai une vendeuse et un apprenti, donc on est plusieurs. Il va falloir donc eux se préparent, donc ils ont des consignes à appliquer pour la vie de la boutique et pouvoir recevoir les clients. Mais et puis il faut aussi faire respecter les consignes par les clients. C'est des nouvelles règles. On n'a pas l'habitude. Et c'est ce qui sera le plus compliqué. De toute façon, on est vraiment heureux de pouvoir réouvrir, mais c'est vrai que les mesures barrières sont très strictes. Et pour ma part, ça veut dire que on va devoir limiter le nombre de clients.
De clients à l'intérieur, bien sûr.
Exactement. Bah,
on vous encourage en tout cas. Merci d'avoir appelé Europe 1, Laetitia, et on est avec vous pour lundi avec cette nouvelle vie hein, qui commence et ces nouveaux gestes à adopter. On va voir à Lyon comment ça se passe. Bonsoir Jean-Luc Bougeon.
Bonsoir Nathalie.
Notre correspondant sur place pour Europe 1. Alors, vous dans les transports en commun, comment les choses se présentent-elles ?
Alors, l'offre à partir de lundi sera conséquente. Hein. L'offre en bus, en tram et en métro, on en aura à peu près 80%, alors que jusque-là, on était vers 50%. Donc, l'offre sera là lundi pour permettre aux gens d'aller travailler. Et évidemment, des mesures sanitaires importantes ont été prises. Hein. Le port du masque obligatoire, bah évidemment. Désinfection quotidienne des rames. Kits de gel et de masques à vendre en distributeur à la place des Kinder Bueno, par exemple. On aura plutôt ça. Et puis, il y aura aussi de toutes nouvelles bornes sans contact qui distribuent du gel hydroalcoolique. Elles sont en train d'être installées dans plusieurs grosses stations du métro lyonnais, explique Fouzia Bouzerda, c'est la présidente du CITRA, l'autorité qui régule les transports lyonnais.
Vous arrivez, vous y mettez vos deux mains, vous avez une vaporisation du produit et dès que la couleur change, on passe du vert au bleu, vous enlevez vos mains, vous les frottez quelques secondes et vos mains sont complètement désinfectées. Vous ne touchez pas à la borne, c'est vraiment sans contact.
Alors c'est la dernière innovation ça en matière de désinfection des mains. Une dizaine d'appareils vont être installés pour commencer, ça montera en puissance ensuite.
Ça c'est pas mal. Alors Jean-Luc, vous avez rencontré des Lyonnais cet après-midi. Toutes ces mesures sont naturelles et rassurées ?
Bof, je dirais à peu près, je dirais à vue de nez, trois quarts des personnes que j'ai interrogées cet après-midi m'ont dit qu'elles éviteraient les transports en commun lundi et les jours suivants. Écoutez ce que ça donne.
Les transports en commun, non, sûr. J'opterai pour le vélo, pour être seul sur le vélo, désinfecter mon guidon et pouvoir déambuler en vélo. Alors, il y a quand même une promiscuité dans les transports en commun, on va être inexorablement collés les uns à côté des autres, donc on va essayer de ne pas se mettre en danger.
J'essaierai de marcher le plus possible.
Pas de transport en commun?
Non, j'éviterai.
Pourquoi?
Parce que c'est quand même pas très fiable au niveau de l'épidémie. Je trouve que même s'ils font des efforts, il y aura forcément du monde aux heures de pointe, il y aura forcément des personnes qui respecteront pas les distances requises.
Alors, si c'est pas les transports cap sur le vélo, sans doute, mais aussi le retour de la voiture avec gros bouchons attendus, sans doute.
Probablement, on n'est pas complètement sûr, mais c'est probable, hein, même si beaucoup de gens seront encore en télétravail lundi. Les voitures seront sûrement très présentes aux entrées de Lyon dès 7h-7h30, hein, retour un peu au monde d'avant. Néanmoins, pour éviter que tout le monde se rue sur sa voiture, la ville de Lyon a décidé de supprimer le parking gratuit qui était en vigueur depuis le début du confinement, depuis le 17 mars. Donc retour du stationnement payant dès lundi 9h, explique Jean-Yves Sécheresse, c'est l'adjoint au déplacement à la mairie de Lyon.
Vous comprenez bien que si nous laissons le stationnement gratuit, nous allons avoir un afflux d'automobiles. C'est pour ça que nous allons revenir à du stationnement payant, de manière à ne pas faire un appel d'air pour nos compatriotes qui habitent parfois très très loin, hein, dans l'Isère, dans la Loire, de manière à ce qu'ils ne soient pas tentés de venir en véhicule automobile, se garant par exemple au centre-ville.
Voilà, donc on aura les premiers éléments de réponse sur ma vie d'après dans les transports, sans doute lundi dans la matinée, on aura une idée, hein.
Voilà pour Lyon. Merci beaucoup de nous avoir fait l'état des lieux en amont. Bien sûr, on verra, Jean-Luc Bougeant, ce qui se joue à partir de lundi. On est également à l'ouest ce soir. On est comme ça en train de couvrir l'ensemble du pays, notamment avec Charles Guyard pour Europe 1. Alors, pour rentrer en classe à partir de la semaine prochaine, on le sait, les élèves devront être en bonne santé, évidemment, ne pas présenter d'état fiévreux, température prise par les parents en amont. Il n'y aura aucune certitude pour y remédier. Un maire aveyronnais a pris une solution, Charles, plutôt radicale, hein.
Oui, et financièrement, la commande n'est d'ailleurs pas anodine pour la Cavalerie, une commune d'environ 2000 habitants. Mais François Rodriguez, son maire, n'a pas hésité à sortir le chéquier.
C'est pas une question de coût. Ce qui est cher, c'est de se tromper. On pourra protéger l'ensemble des services publics. C'est des trucs qui serviront pendant toute l'année.
Ces trucs, ce sont des thermopasses, des bornes d'1m80 qui prennent automatiquement la température de ceux qui passent devant grâce à un capteur thermique. Si une personne est supérieure à 37,8 degrés, l'un des symptômes du Covid, alors un signal retentit. Aucune donnée n'est collectée, c'est une simple information qui s'affiche. Prix à l'unité 5 800 € pour le petit modèle conçu par l'entreprise Visionaut dans l'Aveyron. Ces bornes équipent déjà une dizaine d'entreprises en France et la SNCF se montrerait également intéressée. Mais à la Cavalerie, à une vingtaine de kilomètres de Millau, donc c'est devant les deux écoles qu'elles seront installées mardi, jour de la rentrée pour les 220 enfants de la petite section au CM2. Et si l'élu a pris cette initiative sans même en avertir ni l'académie ni les parents d'élèves, c'est en même temps pour se couvrir et pour appliquer à la lettre le consistant protocole de 63 pages délivrées par le ministère de l'Éducation nationale pour un retour en classe en toute sécurité. François Rodriguez.
Dans le protocole, ils ont mis qu'ils devaient prendre la température des enfants le matin avant de les amener à l'école. Les parents doivent le faire, mais comme je ne suis pas tellement convaincu, s'ils ne l'ont pas fait, au moins je suis sûr que nous, on l'aura fait. Quand il y a eu l'épidémie de la gastro-entérite l'année dernière, les gens amenaient quand même des enfants malades à l'école. C'est pour moi une arme. J'essaie de me couvrir le maximum sur les moyens à mettre en place, parce que la responsabilité pénale, pour le moment, c'est quand même encore le maire qui l'a. C'est ça ou sinon, mais moi, j'ouvre pas. Hein.
Les deux bornes doivent être livrées et installées mardi. Enfants, enseignants et accompagnateurs seront donc tous obligés de passer devant avant de pouvoir pénétrer dans l'établissement.
Merci beaucoup Charles Guyard pour Europe 1. On continue notre tour de France, Occitanie, Est, Bordeaux. On est chez vous, à tout de suite.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et avec les correspondants d'Europe 1 à travers toute la France pour nous faire vivre la préparation du déconfinement. Et on file à l'ouest.
Ouais, cap au sud en fait avec... Benjamin Péter, notre correspondant. Ouais, en Occitanie,
bonsoir.
C'est Montauban, c'est Toulouse, c'est Albi, ça exactement. Sonne, Carcassonne, on aime ça, ça chante. Alors, chez vous, une décision du côté des maires des littoraux qui était, que beaucoup de maires des littoraux attendaient, hein. Elle est venue comme ça, l'air de rien, de Christophe Castaner entre deux, hein. La règle, reste la fermeture, bien sûr, pour les plages et lacs, mais, il y a un mais, il va peut-être y avoir des possibilités avec des dérogations. C'est le préfet qui tranchera, en tout cas, et les maires des communes concernées.
Oui, et d'ailleurs, il y avait encore aujourd'hui une réunion avec plusieurs maires de la côte catalane pour présenter un plan de réouverture partielle au préfet des Pyrénées-Orientales. L'idée, c'est de pouvoir présenter un plan commun qui tienne compte des spécificités de chaque commune du département, de la topologie de chaque plage. Un gros casse-tête, vous l'imaginez, mais que le gouvernement valide enfin le principe d'une réouverture sous condition, c'est déjà un grand soulagement pour le maire de Toreil, Marc Medina.
C'est une très bonne nouvelle pour toute la filière du tourisme. Et nous avons travaillé justement aujourd'hui tous les maires de la côte sableuse catalane pour justement proposer à Monsieur le Préfet une stratégie commune. Pour nous, à Toreil, il est difficile de contrôler les accès à la plage parce qu'ils sont très ouverts. Et on envisage de ne permettre que les usages dynamiques. Aller se promener au bord de l'eau, quelqu'un qui va venir faire du sport, quelqu'un qui va nager. Pas de bronzette, pas de statique, pas de pique-nique sur la plage.
Alors d'autres mairies envisagent par exemple de condamner les entrées des plages, hein, un peu comme on le voit beaucoup en ce moment, définir une entrée, une sortie et que la plage soit limitée à un certain nombre de personnes, un numerus clausus hein, en somme, pour éviter que les serviettes soient trop proches les unes des autres à touche-touche. Ouais.
Bah oui, évidemment. Alors le problème, c'est qu'il va falloir faire respecter ces restrictions à tous les vacanciers. Et là, on s'attaque à un autre problème.
Hein. Mais oui, ça va être compliqué. C'est ce qui fait peur à beaucoup de maires, d'autant que ces limitations pourraient durer. Hein. Il faut s'y préparer. À Saint-Cyprien, par exemple, la commune le dit, elle n'a pas les moyens de contrôler les accès avec des agents partout. Elle envisage donc de se reposer sur les plages privées, qu'elle puisse proposer plus de transats, moins cher peut-être, mais surtout désinfecter après chaque personne. À Argelès-sur-Mer, un peu plus loin, à l'inverse, le maire Antoine Parra veut conserver cet accès gratuit, mais en s'appuyant sur un système de réservation sur Internet.
Avant de venir, vous allez sur votre ordinateur, vous inscrivez pour aller à telle plage à une, deux ou trois personnes de telle heure à telle heure. Vous avez un retour que vous pouvez imprimer, mais ça permettrait quand même de donner un accès à la plage. Argelès-sur-Mer, sans ces plages, c'est plus du tout Argelès-sur-Mer. Ça pourrait quand même donner un moyen terme intéressant.
Et ce que m'expliquaient plusieurs maires, c'est que l'ouverture des plages dès le mois de mai, ça va permettre de tester en fait ces mécanismes avec les locaux, ou en tout cas ceux qui viennent des 100 km alentour. À Toulouse, on n'est pas concerné, on peut pas aller jusqu'aux plages. Mais en tout cas, ça va permettre de les améliorer et être prêt pour le cœur de l'été si les restrictions devaient être maintenues.
Ça nous fait rêver, hein, nous ici en Île-de-France. Merci beaucoup. On espère, on attend. Bah oui, je sais bien. Merci beaucoup à vous, Benjamin Péter. Alors là, il y a pas de plage, comme ça, il y a pas de questions à se poser. On est dans l'Est avec le Grand Est avec vous, Arthur Mbaché. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Alors cette perspective du déconfinement, on la touche du doigt. Hein. Comment les habitants et surtout les soignants du Grand Est voient ça?
Alors tous les soignants avec qui j'ai parlé aujourd'hui, des infirmiers, des gens qui travaillent en réa, des chefs de service en Alsace, en Lorraine, tous disent on s'emballe pas, on s'excite pas, ne reprenez pas, chers habitants du Grand Est, votre vie d'avant. La raison, elle est simple, ils ont travaillé comme des damnés pendant des semaines, là... Ça va enfin un peu mieux, un tout petit peu mieux. Ils ne veulent surtout pas revoir les malades arriver. Vous savez ce qui s'est passé ici depuis deux mois? Ça restera, ça a marqué les équipes. On a surmonté ça grâce à l'adrénaline, m'a dit un urgentiste strasbourgeois. La nouveauté, le côté inédit, improbable, invraisemblable même de la chose, tout ça, ça a donné du jus aux soignants. Mais si ça devait revenir, là, le moral ne tiendra pas, me dit-on. Autre point, vous en avez parlé dans l'émission, on a ce soir une carte régionale, mais il y a des disparités immenses entre les départements, entre les Ardennes, par exemple, jamais franchement sous tension depuis le début, et la Moselle, par exemple, qui reste ce soir, au-delà de 100% de ses capacités initiales en réanimation.
Et la population en général dans la région, vous diriez que les gens appréhendent comment le déconfinement ?
Alors, il y a toute une partie des gens qui, c'est vrai, est vraiment marquée par ce qui s'est passé, par ce qui se passe encore. Les images inimaginables, hein, mais bien réelles, de patients évacués par l'armée, les TGV. Et puis vous avez, mine de rien, c'est bête, mais mathématiquement, plus de gens ici qui connaissent des personnes qui ont été malades, qui sont encore malades, qui sont en réa ou qui sont décédées du Covid. Donc, des habitants de mon quartier, cet après-midi, me disaient, 11 mai, on change rien, on aura juste plus le papier à remplir pour aller faire les courses, mais on garde notre mode de vie actuel en attendant que ça s'arrange pour de bon. Mais je vous mentirais si je vous disais que tous les gens ici prennent la prudence. Il y a aussi ici, c'est pas un scoop, hein, des familles nombreuses qui peuvent plus s'encadrer. Il y a aussi ici des logements trop petits et pas confortables. Il y a aussi ici des gens qui veulent revoir leurs amis, leurs petits-enfants, revoir des gens, bref. Il y a aussi ici des gens qui trépignent, qui attendent avec impatience. D'après mes enfants, il reste 4 dodos avant le déconfinement.
C'est mignon. Bon, merci beaucoup, Arthur. Allez, on file dans le sud-ouest pour conclure avec vous, Stéphane Place, cette région que j'aime tant. Bonsoir, Stéphane.
Bonsoir, Nathalie.
Alors, chez vous,
à tous.
Le Premier ministre a insisté sur l'urgence de relancer l'économie. Il l'a redit cet après-midi. On va pouvoir se rendre dans les boutiques, dans toutes les boutiques, Stéphane.
Oui, dans toutes les boutiques, mais on va réorganiser les choses. Je sens que vous êtes impatiente d'aller faire du shopping. Dans
la plus rue... à la plage, hein, je suis désolée.
Ah bon, bah, dans la rue Sainte-Catherine, à Bordeaux, c'est une rue très connue, emblématique de la ville, qui fait plus d'un kilomètre de long, près de 10 mètres de large. En fait, on va redécouper l'artère commerçante. On va la scinder en trois parties distinctes pour éviter la foule des samedis qui se frôle, qui se touche. Écoutez le président de la Ronde des Quartiers, c'est l'association qui réunit les commerçants bordelais, Christian Bolm.
Les deux bandes grises, comme dans toutes les rues piétonnes, le long des façades, seront transformées en zones d'attente pour entrer dans les commerces. Rue Balise. On n'a pas voulu la barrière grise métallique avec ses deux pieds en travers. C'est un casse-gueule phénoménal, donc rue Balise. Pour éviter ces masses, les gens qui se croisent de gauche à droite pour entrer dans les magasins, qui vont couper des fils, etc.
Voilà, donc alors, ça c'est Christian Bolm, le président des commerçants.
Alors on comprend bien le principe, deux voies pour patienter, entrer dans les boutiques, une voie centrale pour circuler dans cette rue Sainte-Catherine. Faut-il encore faire respecter le principe, les distances?
Alors ça c'est vrai, d'autant que vous l'avez entendu, on a abandonné l'idée des barrières en métal pour les séparations, donc rue balise et puis surtout marquage au sol, avec également des agents qui seront sur le qui-vive, prévient Nicolas Florian, le maire de Bordeaux.
On va utiliser la vidéosurveillance pour être réactif. Si on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a une forte concentration, que les gens ne respectent pas les distanciations, d'être très réactif et avec la police nationale et avec la police municipale, plus des agents sur place et qui, ici ou là, expliqueront aux gens le bon usage de l'espace public.
Voilà, le maire de Bordeaux qui souhaite également imposer, notamment dans cette rue Sainte-Catherine, le port du masque qui sera de toute façon obligatoire dans de très nombreuses boutiques.
Ouais, du coup, ça, ce que j'allais vous dire, rue Sainte-Catherine et dans le centre de Bordeaux, on pourra entrer dans les boutiques comme avant, facilement, comme ça?
Bah, en tout cas, non, il va y avoir des choses qui vont changer. Les commerçants veulent rassurer leurs clients, donc effectivement, entrer dans les magasins ne se fera pas de la même manière, ce ne sera pas aussi spontané. Sophie tient une parfumerie à Bordeaux.
Le masque, la désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique. De toute façon, on va mettre en vitrine les consignes, justement pour que chacun puisse savoir ce qu'il doit faire quand il rentre dans la boutique. La surface étant petite, donc on va désinfecter le TPE après chaque transaction. Pour protéger les clients, nous avons commandé en plus des visières. Le principal, c'est de les faire revenir, de leur montrer qu'ils peuvent reconsommer dans la sécurité.
Voilà, donc vous avez compris Nathalie, quand vous rentrerez de la plage d'Arcachon et vous viendrez faire des courses, du shopping rue Sainte-Catherine et dans le centre de Bordeaux, ça pourra se faire, mais pas comme avant.
Voilà, c'est ça, mais rien ne sera plus comme avant. Merci beaucoup Stéphane Place, merci à tous les correspondants un peu partout en région. Merci, on vivra ce déconfinement ensemble demain, édition spéciale sur Europe 1 pour revenir sur ces deux mois, pour aller sur l'après. C'est à partir de 18h avec tous nos invités, la réflexion à document sonore exceptionnel. Merci de nous avoir suivis. Émilie Mazoyer reprend la main. C'est 20h, c'est musique. Bien sûr, il y a ces applaudissements pour les soignants. On les entend et on les encourage toujours. Émilie reçoit ce soir Louis Bertignac qui participe après-demain au concert confiné Rock à Tom au profit de la Fondation de France. Et puis le concert, ce sera Stevie Wonder à Osaka, au Japon. Oh là là. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain dès 18h en ce 8 mai. Nous serons au rendez-vous avec cette édition particulière. Merci. Très belle soirée à tous.